18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir. 2 heures d'infos, d'analyse et de découverte avec la rédaction et nos invités. Et une question qui angoisse les Français en ce moment face à la grève et à la paralysie des trains. Pourront-ils passer ensemble les fêtes de Noël? Le Premier ministre renvoie les syndicats à leur responsabilité. Sudrail s'exprime ce soir sur Europe 1 dans un instant. 18h30, les artistes souffrent aussi de ce mouvement social. Mais on vous plonge dans les coulisses de la famille Alexis Grusse. La piste aux étoiles et le cheval comme ADN. 18h50, une chanson dans la tête.
La Rocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havane.
En ce lendemain de vendredi 13, Fabien Lecoeuvre vous raconte les porte-bonheur et autres gris-gris des chanteurs. 19h15, Boris Johnson élu massivement au Royaume-Uni, aux législatives, porte ouverte pour le Brexit. 19h30, on refait l'actu avec le sociologue Michel Wieworka qui analyse pour nous le rapport des Français au travail. Voilà une partie de votre sommaire pour le 18-20. On commence d'abord avec le journal car il est 18h. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h, merci d'avoir choisi Europe 1.
Là, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas de transport, ça se ressent, il n'y a que des gens aux alentours, mais pas d'acheteurs.
10e jour de grève dans les transports qui dissuade certains de faire leurs courses de Noël. Trafic toujours aussi perturbé demain avec un TGV sur 4, un TER sur 3 et un Transilien sur 5.
Y aura-t-il des trains à Noël? La SNCF promet d'acheminer un voyageur sur deux. Pas si simple dans les faits, nous dira Emmanuel Duteil.
La ministre des Sports, Roxana Maracine, est à nous chahutée par des supporters hier soir lors d'un match du Red Star. Elle réagit sur Europe 1.
J'ai été peinée d'entendre « tu n'as rien à faire ici ». Moi, j'ai été sportive avant d'être ministre, je suis ministre des sports, donc bien sûr j'ai quelque chose à faire dans un stade de foot, c'est ma place.
Et puis qui sera la Miss France 2020, élection ce soir à Marseille, et pour les habitants, la réponse va de soi.
Ça fait trop longtemps que ça nous fuit, qu'on n'a pas l'écharpe de Miss France à Marseille, et cette année elle va y être.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 jusqu'à 20h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et cette question qui agite, Fabienne, les familles à 10 jours du réveillon de Noël, les trains vont-ils rouler à cette période? Il faut savoir si nous pourrons en effet nous réunir pour ces fêtes de fin d'année.
Et le patron de la SNCF demande aux cheminots de faire une pause, c'était hier soir dans une vidéo interne. Et ce matin dans Le Parisien, la directrice générale de l'entreprise assure que la moitié des passagers seront acheminés à bon port. Une promesse qui ne sera pas facile à tenir, Emmanuel Duteil.
En effet, hein, Fabienne, parce que les vacances de Noël, c'est l'une des périodes les plus chargées de l'année à la SNCF. À ce moment-là, tous les TGV disponibles sont logiquement mobilisés. Mais là, voilà, hein, pour le moment, une bonne partie des conducteurs pourraient être en grève. Malgré les appels de la direction à faire une pause pendant les vacances, les syndicats sont toujours très remontés. Et même si ça devait s'améliorer sur ce front-là, ça ne devrait pas suffire. Car pour faire rouler les TGV, il faut au préalable les avoir entretenus. Et là aussi, dans les technicentres, tout est au ralenti à cause du mouvement de protestation. Du coup, il semble impossible de préparer tous les trains et c'est pour cela que la SNCF s'engage à faire voyager au moins la moitié des passagers et pas plus. La compagnie va concentrer tous ses efforts sur les liaisons où il y a le plus de réservations. Mais c'est un travail titanesque, hein. Il faut imaginer le nombre de trajets, les changements qui peuvent exister. Tout l'effort sera mis sur les TGV et les Ouigo, ça va peut-être être plus difficile encore sur les TER et tout pourrait se complexifier encore si la grève devait se renforcer.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, du côté des syndicats en campe sur ces positions, en tout cas la CGT, on répond au patron de la SNCF que si le gouvernement veut que le conflit cesse avant les fêtes, il a toute la semaine pour prendre la décision de bon sens qui s'impose, le retrait de la réforme par point, fin de citation.
La balle est donc manifestement dans le camp du gouvernement. On entendra sur ce sujet dans 10 minutes et en direct sur Europe 1, Julien Trocaz, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. En tout cas, Fabienne, pour l'instant, le trafic reste toujours très perturbé. 10e jour de grève.
Et ce sera le cas encore demain à la SNCF. Un TGV sur 4, 3 TER sur 10, un Transilien sur 5. Du côté de la RATP, les métros ne roulent qu'une partie de la journée quand ils fonctionnent. La question, c'est de savoir si cela a un effet dissuasif pour faire ses courses de Noël. Justin Morin, vous êtes dans le centre commercial de la Défense, est-ce que les magasins font le plein ?
Eh bien, c'est assez mitigé, hein, parce que d'un côté, oui, malgré les grèves, les problèmes de transport, il y a du monde, Noël approche, mais pas autant qu'espéré. C'est vrai que ça n'est pas la cohue ici comme ça l'est d'habitude, nous dit-on à l'accueil, et ça se ressent vraiment dans certaines boutiques, comme dans celle de Gabrielle. Quand je suis entré, les quatre vendeuses rigolaient entre elles, pas un client.
Là, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est sûr qu'on a l'impression d'être un peu sur un mois d'octobre-novembre, en période de vacances scolaires. Il n'y a pas de transport, ça se ressent, il n'y a que des gens aux alentours, mais pas d'acheteurs. Peut-être que la semaine prochaine, ça va aller mieux, mais vu le mardi 17 décembre, je suis pas sûre.
La nouvelle mobilisation inquiète, il y aura encore des difficultés pour se rendre dans ce centre commercial. Alors il y a bien la ligne 1 automatisée qui vient jusqu'ici, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés sont plutôt venus par leurs propres moyens.
Voiture, obligatoire. Mais grand parking, c'est là aussi le choix, malheureusement, par rapport aux petites boutiques isolées, c'est que parking oblige.
C'est un peu fatigant, mais ça va, on a choisi d'être ici. De toute façon, on peut prendre que la ligne 1, donc on n'a pas le choix. Il faut faire les cadeaux de Noël.
Pas le choix, c'est bien ça le problème. Malheureusement pour ses clients, le centre commercial fermera ses portes plus tôt que prévu ce soir pour que les salariés puissent rentrer chez eux. Et là encore, ça ne va pas arranger les affaires des commerçants.
Justin Morin, à La Défense pour Europe 1.
Alors, est-ce l'illustration que le climat est un peu crispé, disons, en ce moment? On vous parle de la ministre des Sports qui a été chahutée hier par des supporters au stade de Saint-Ouen.
Roxana Maracineanu, qui a été interpellée vertement, vous allez l'entendre, alors qu'elle assistait à un match du Red Star.
À la mi-temps, des personnes qui étaient présentes au match, qui m'ont reconnue, qui sont venues calmement discuter avec moi. Et puis, au bout de 5-6 minutes, d'autres personnes alertées les ont entourées, une dizaine, hein, une petite dizaine de supporters, qui ont mis leur cagoule sur le visage et qui ont commencé à scander des slogans politiques et qui, petit à petit, nous ont encerclés et nous ont clairement intimidés. Et j'ai été peinée d'entendre des choses comme « tu n'as rien à faire ici, va-t'en ». Moi, j'ai été sportive avant d'être ministre, je suis ministre des Sports, donc bien sûr, j'ai quelque chose à faire dans un stade de foot, c'est ma place. Je suis un peu outrée, j'allais dire, mais en même temps, je minimise l'ampleur de la chose. C'était une dizaine de personnes sur les milliers qui étaient dans le stade. Le football mérite beaucoup mieux que ce qu'on voit là. Et j'en suis convaincue, je le sais, et c'est mon travail au quotidien.
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, jointe par Yasmina Katou.
Il est 18h06, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Et toujours 11 départements en vigilance orange, inondation dans le sud-ouest ce soir. Un homme de 76 ans, toujours porté disparu à Espiens, dans le Lot-et-Garonne, emporté par un cours d'eau.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, nette amélioration alors que la Nive avait débordé. Résultat, des dizaines de voitures sinistrées à Bayonne, comme a pu le constater notre correspondant Stéphane Classe.
Pas une goutte de pluie depuis le début de la journée ici à Bayonne où la Nive a regagné son lit après avoir débordé encore la nuit dernière. Mais dans cette résidence, l'eau marronnasse tarde à s'évacuer. Le sous-sol, les parkings sont totalement inondés. Thierry, qui habite ici, n'a pas eu le temps hier de sortir sa Mercedes.
Il y a toujours de l'eau dans la cuvette, donc c'est la voiture que j'ai pas pu évacuer. Elle est restée dans le parking, en bas de l'immeuble. Je crains le pire. Bon, je pense qu'elle est inutilisable. Mais j'ai appelé l'assurance qui m'a dit qu'il viendrait la remorquer dès qu'il n'y aura plus d'eau. C'est la fatalité, hein. On ne peut rien faire de plus.
Enzo, au volant de son camion de remorquage, multiplie les interventions depuis le début de la journée.
On a été souvent appelés pour les véhicules inondés. Beaucoup sur Bacambo, on en a fait quelques-unes à Mouglère et Lissaberry. Là, typiquement, du moment que le parking souterrain est rempli d'eau, on ne peut pas intervenir, quoi. Maintenant, les véhicules sont bourrés d'électronique, donc dès que ça commence à prendre l'eau au niveau du plancher, en général, ça va être compliqué de les remettre en route, quoi. De toute façon, tous les parkings souterrains comme ici, qui sont inaccessibles, parce qui sont remplis d'eau, on va remorquer les véhicules qu'à partir de quand ils seront vides, quoi.
Des opérations de remorquage qui, pour certaines, ne seront donc envisageables qu'en début de semaine. Bayonne, Stéphane Place, Europe 1.
Et la décrue est aussi amorcée dans les Landes, alors que 600 personnes avaient été évacuées par précaution à Peyrehorade.
Dans l'actualité également, l'incendie qui a touché la raffinerie Total près du Havre est désormais sous contrôle.
Et Total qui annonce que le principal foyer est désormais éteint. C'est la nuit dernière que le feu s'est déclaré, entraînant dans un premier temps des messages d'alerte aux riverains pour leur dire de rester confinés chez eux, interdiction de sortir depuis levée. Le maire de Gonfreville-Lorcher, commune sur laquelle est située la raffinerie, raconte au micro de Caroline Baudry.
J'ai eu un coup de téléphone des services de secours, d'incendie de secours vers 4h20 ce matin. Donc à 5h moins le quart, j'étais présent sur le site de Total. Ils m'ont informé qu'il y avait un incendie qui était en cours. Mais c'est des incendies qui arrivent parfois sur ces sites. Le risque a été géré par les services de pompiers en interne au site. Les services de la préfecture étaient sur place. Les pompiers extérieurs étaient sur place pour contrôler que les services de Total géraient la situation. La situation a très vite été sous contrôle. Les populations ne sont pas en danger. Pour que la préfecture va apporter les preuves qu'il n'y a pas de risque. Donc on devrait avoir les éléments de preuve, parce qu'il y a des précautions à prendre dans le contexte avec le Lubrizol, etc. C'est bien nécessaire. Il est important que les populations puissent être informées de la meilleure façon possible.
Alban Bruno, le maire de Gonfreville-Lorcher avec Caroline Baudry. Alors que l'usine Lubrizol a eu le feu vert pour reprendre ses activités à partir d'aujourd'hui, reprise progressive.
On va terminer avec cette question. Alors si vous avez la réponse,
non.
Bravo. Qui sera la Miss France 2020? On ne douche pas l'enthousiasme de chacun.
Non, eh bien réponse ce soir à Marseille où a lieu l'élection cette année avec la capitaine des Bleus Amandine Henry qui préside le jury. Les Marseillais, eux en tout cas, ont déjà bien tranché. Nathalie Chevance.
Depuis 15 jours, les Miss déambulent du Vieux-Port à la Foire aux Santons, des Calanques au Vélodrome, sous les yeux des Marseillais qui forcément ont déjà désigné leur favorite.
Évidemment, Miss Provence, vous voulez qu'on supporte qui d'autre? On l'aime, voilà, on l'aime. Marseille la soutient.
Elle va gagner, c'est obligé. Elle ne peut pas faire autrement cette année. Ça fait trop longtemps que ça nous fuit, qu'on n'a pas l'écharpe de Miss France à Marseille et cette année, elle va y être.
En tout cas, toutes les prétendantes revendiquent leur liberté, leur féminité, leur personnalité, la recette pour l'emporter, d'après Sylvie Tellier, directrice générale.
C'est que ces jeunes femmes restent elles-mêmes. On est à la recherche de personnalité. D'ailleurs, vous le verrez, elles sont 30 avec une histoire, des engagements. Mais avant tout, je pense qu'il faut aimer les gens parce que Miss France est élue par les Français et pendant un an, elle va aller à la rencontre des gens. Elle est là pour donner du sourire dans un contexte qui est parfois pas très facile.
Et face aux polémiques, aux critiques sur un concours jugé vraiment trop ringard, Miss France 2019 se défend.
Je lutte contre le harcèlement scolaire, mais effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être juste belle. On est porté à rencontrer différents publics et à avoir différents sujets. Donc, il faut avoir la capacité de répondre, il faut avoir la capacité d'argumenter aussi et surtout de se positionner.
Concours de beauté d'un autre temps, en tout cas le spectacle devrait enregistrer encore une fois un gros succès d'audience. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Bien, les paris sont ouverts.
Merci,
réponse
madame.
Demain.
Madame la Française, chérie, comme le note l'inscription de votre t-shirt, on se retrouve demain à la présentation
demain,
du journal
midi.
De midi. Merci beaucoup. Voici le temps. Fin de la vigilance avalanche, nous signale Valérie Darmon, mais toujours ces 11 départements du sud-ouest en vigilance orange pour crue, on en parlait. En revanche, partout ailleurs, le temps redevient calme, sans trop de pluie, de la douceur et du soleil au sud, Valérie.
Oui, c'est vrai, on note juste une bande pluvieuse qui arrose tout au long de la journée les régions allant du nord de l'Aquitaine au Poitou-Charentes et en Vendée jusqu'aux régions du Grand Est. Ces précipitations tendent à s'atténuer au fil des heures, mais sous un ciel qui va rester couvert. Au sud de cette zone, le temps est variable avec quelques nuages bas qui s'installent sur le golfe du Lion et puis sur le littoral de PACA et de la Corse en fin de journée. Plus au nord, le ciel alterne entre éclaircies et passages nuageux, rien à voir avec ce samedi et des averses ici ou là. Le vent souffle flora le long des côtes de la Manche, toujours à 70 km/h, 90 près du Cotentin. Les minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés en général, 10 et 13 sur les bords de la Méditerranée. Les maximales, 10 à 14 sur la moitié nord du pays et 14 à 19 plus au sud et en Corse.
Merci Valérie Darmon et à tout à l'heure 18h30 pour la météo des neiges. Y aura-t-il des trains à Noël, Wendy Bouchard?
Oui, les familles pourront-elles se réunir sans galère et avec des trains en effet? Sudrail maintient le mouvement. Un de ses représentants, secrétaire fédéral, est avec nous dans un instant.
18h14, vous écoutez le Grand Journal du Soir sur Europe 1. Alors que les plans s'échafaudent dans les familles pour organiser les éventuels déplacements de fin d'année, Wendy Bouchard, vous recevez à présent un représentant syndical toujours déterminé.
Absolument, il est secrétaire fédéral de Sudrail, l'un des syndicats majoritaires chez les cheminots. Bonsoir Julien Trocaz.
Bonsoir.
Et il se trouve qu'en ce moment vous êtes à Paris, salle Pleyel, pour une assemblée générale festive avec vos camarades de la RATP. Que fêtez-vous Julien Trocaz?
En fait, c'est une action interprofessionnelle avec des camarades de la RATP et aussi des citoyens et des citoyennes qui sont venus apporter leur soutien à celles et ceux qui luttent depuis plusieurs jours contre le projet de loi du gouvernement.
Ça veut dire que vous fêtez le fait que la grève soit reconduite du point de vue des cheminots?
On renforce la solidarité dans le pays entre les salariés, avec les chômeurs et avec la jeunesse.
Pas sûr que vous renforciez la solidarité quand la période des fêtes de fin d'année risque d'être si impactée. Vous n'avez pas peur de monter les Français les uns contre les autres alors qu'on sait bien que vous vous battez pour l'intérêt général et pour chacun?
Je pense que, mais depuis quelques semaines, voire quelques mois, ceux qui montent les uns contre les autres, c'est le gouvernement. On l'a déjà vu l'année dernière avec les Gilets jaunes et on le voit là maintenant depuis quelques semaines. On a voulu monter alors les régimes spéciaux avec le privé, ça n'a pas marché. Là, on a voulu monter les générations entre elles avec les fameuses clauses du grand-père ou de l'oncle. Ça n'a pas marché. Donc, ceux qui montent les uns contre les autres, c'est le gouvernement et pas les salariés dans ce pays.
Le problème, c'est que chacun campe sur ses positions, vous comme eux, en face au gouvernement. Édouard Philippe décrit votre posture de reconduction de la grève ce matin dans Le Parisien en disant ceci, Julien Trocaz, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment de Noël. Prendre ses responsabilités pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on les prend, ça veut dire qu'il y a des milliers de salariés, alors de cheminotes et de cheminots pour ceux que qu'on représente, qui se réunissent depuis 10 jours en Assemblée Générale et qui décident de la reconduction au nom de la grève et que là, depuis une dizaine de jours, le mot, il est très ferme, c'est le retrait du projet de loi dans un premier temps et après, on négociera pour améliorer avec le système actuel toutes les inégalités que le gouvernement met en avant dans l'enfumage depuis quelques semaines.
Et pourquoi ne pas accepter une trêve de Noël, Julien Trocaz ?
Non mais vous l'avez dit, enfin, ça s'appelle il y a un bras de fer. Un bras de fer, aujourd'hui le rapport de force il y est, hein, le gouvernement il vacille, il n'a qu'une, voilà, c'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui a la clé du déblocage, voilà. Il retire son projet de loi que personne ne veut, hein, malgré 10 jours et malgré évidemment des situations conflictuelles dans le pays, l'opinion publique est toujours contre ce projet de loi, donc il faut qu'il arrête cette fois cette posture. Qu'il écoute un petit peu celles et ceux qui travaillent dans le pays, celles et ceux qui font tourner la boutique et qui retirent son projet de loi.
Oui, mais celles et ceux, comme vous dites aussi, Julien Trocaz, qui ont des familles à l'autre bout de la France et qui aimeraient pouvoir se réunir, comme vous peut-être.
Voilà, tout à fait, ouais, comme nous peut-être. Ouais.
Et donc cette période-là n'est pas bénie pour vous, entre guillemets, pour pouvoir suspendre ce mouvement le temps de cette réconciliation nationale.
Non, mais avec tout ce qu'il y a à perdre avec le projet de loi sur le système à points, on va rien lâcher, mais on va rien lâcher parce qu'on est déterminé, mais parce que aussi aujourd'hui le rapport de force il est de notre côté. Enfin, on sait très bien, on voit qu'on a un gouvernement qui vacille, il essaye plein de tactiques. Là, on a eu les patrons des entreprises publiques qui ont fait encore un petit coup médiatique qui n'a pas marché, hein, parce que les premières réactions ce matin des cheminotes et des cheminots pour avoir tourné par exemple à Gare de l'Est, c'est en gros, alors là ça intéresse les patrons de parler du service public pour Noël, mais le reste de l'année on parle jamais du service public. Donc de toute façon, la détermination elle est bien présente et ils vont céder.
Donc vous êtes plus déterminé que jamais, Sudrail notamment que vous représentez. Vous vous rendrez mercredi à l'invitation d'Edouard Philippe au lendemain d'un nouveau mouvement social ?
Nous, alors l'Union syndicale solidaire dont la Fédération Sudrail fait partie, n'a pas eu d'invitation. Et s'il invite, faut qu'on arrête de perdre son temps. S'il invite des organisations syndicales, c'est pour répondre aux revendications des grévistes. Et donc c'est pour annoncer dans un premier lieu le retrait du système par points.
Je pense à ces mots ce matin de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie qui indique que l'âge pivot à 64 ans est bel et bien négociable. Signe que les négociations sont ouvertes, que cette main se tend, l'accepterez-vous ou pas, mais en tout cas elle existe. C'est là que vous voyez que le gouvernement, en effet, selon vos mots, vacille, Julien Trocaz ?
Non, alors ça c'est un écran de fumée, hein. C'est juste pour empêcher de parler du fond, ça veut dire du système par points et donc de travailler plus longtemps et d'avoir des pensions moins importantes. Quand on dit qu'on vacille, c'est un petit peu l'arrogance qui revient sur les chaînes médiatiques, sur les interventions du gouvernement. On voit bien, mercredi, le discours fleuve, sur le coup, le Premier ministre a été âme parce que ces annonces, elles ont été magiques. Ils pensaient qu'elles n'étaient pas magiques, elles ont été magiques parce qu'elles ont renforcé la détermination de celles et ceux qui luttent depuis quelques jours. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on vacille. On le voit bien même sur les plateaux télé, par exemple, ou dans les interventions. Les porte-parole de la Macronie, ils sont quand même beaucoup en difficulté pour expliquer leur usine à gaz. Et il y a quand même un symbole qui s'appelle le haut commissaire de Levoix, où on n'entend même plus son nom. Mmh. Voilà, c'est aussi un symbole. Tout ça, leur château de cartes est en train de s'écrouler. Mais c'est plutôt bon signe pour les salariés dans ce pays.
Et moi, j'aimerais qu'on compense aussi à tous les autres Français, je reviens sur le sujet, qui veulent organiser leur fin d'année et leur fête de fin d'année. La SNCF, ce matin, a pris l'engagement de faire voyager coûte que coûte la moitié des passagers pendant les fêtes. C'est réaliste pour vous ?
Peut-être qu'elle a des infos, peut-être qu'elle sait qu'Edouard Philippe il va retirer son projet.
C'est tout ce que vous voyez derrière ? Il n'y a pas moyen de réquisitionner ou de réaffecter à des lignes importantes et où le trafic est important des conducteurs ?
Si effectivement on monte de surenchère et on fait que on reparle de réquisition, enfin, ça va faire que augmenter la colère sociale. Donc il faut être, c'est pas grave hein, de reculer. Il y a que les bêtes, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. C'est vraiment pas grave, c'est pas une honte de reculer, de dire bon bah voilà, le projet il est pas accepté par la grande majorité des citoyens, on recule, il y a aucune honte. Donc on va, si on commence à rentrer dans une escalade de réquisition tout ça, ça ne fera que accentuer la colère sociale, ça ne fera accentuer que la détermination et le conflit dans ce pays.
On a l'impression que vous avez gagné la partie, Julien Trocaz, je me trompe?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est confiant. Confiant et déterminé, parce que voilà, moi je vous l'avais dit. On est là aujourd'hui, on est à Payel, un samedi à 18h avec des citoyens, avec des travailleurs, avec des chômeurs, autour d'un petit feu et à échanger, voilà, avoir des moments d'échange, avoir une conviction. Et évidemment, c'est de la détermination et ça nous donne de la force pour continuer.
Merci Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail, de nous avoir apporté votre analyse sur le sujet et surtout votre position déterminée, alors que Salle Pleyel, en général, on reçoit pas mal d'artistes et que les artistes sont eux-mêmes entravés dans leur spectacle aujourd'hui. Très difficile de se rendre dans ces différentes salles. On se retrouve dans un instant, Marlène.
Oui, 18h21, dans un instant, c'est le journal des sports, Wendy. Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et toute l'actualité des sports avec vous. Bonsoir Christophe Lamar.
Bonsoir.
Et à la une de ce samedi.
Quand un dauphin rencontre un barragiste, que peut-il se produire? Marseille-Metz ou plutôt Metz-Marseille? Dans cet ordre, les Marseillais réussissent partout où ils se produisent. Les Messins n'ont plus gagné un match de championnat depuis 2 mois. À Val d'Isère, les slalomeurs ont attendu toute la matinée, non pas que la neige tombe, mais que le vent se calme. Peine perdue, la course est reportée à demain. Et puis ils reviennent et ils sont très contents. Florent Manaudou et Amaury Levaux, fraîchement sortis de leur retraite, ont disputé les championnats de France de natation petit bassin à Angers avec une obsession, les Jeux de Tokyo.
Et donc on commence avec du foot, 18e journée de Ligue 1 et ce match en cours entre Metz et Marseille.
Les Messins sont barragistes, les Marseillais sont deuxièmes au classement. On prend la direction de la Moselle, le stade Saint-Symphorien, où l'on retrouve l'un de nos correspondants sur place, Patrick Muller. Patrick, c'est la mi-temps chez vous. Est-ce que la hiérarchie est respectée? Quelque chose me dit que non.
Et effectivement, mon cher Christophe, la hiérarchie n'est pas à respecter puisque c'est le FC Metz qui crée pour l'instant la sensation avec cet avantage d'un but. 1-0 pour les Grenats, but de Opa Nguette à la 39e suite à un bon travail sur le côté droit de la part de 111. Nguette qui bat Johan Pelé qui est entré en lieu et place de Steve Mandanda qui a dû céder sa place sur blessure. Vous l'avez dit Christophe, 6 victoires de rang pour Marseille et donc grosse surprise pour l'instant avec cette équipe de Metz barragiste qui met en difficulté les Phocéens et qui mène donc 1-0 à la pause.
Patrick Muller en direct du stade Saint-Symphorien. Patrick que l'on retrouvera dans le journal des sports de 19h.
Avec 5 autres matchs au programme de la journée.
Ils débuteront tous à 20h et vous pourrez les suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir. Angers-Monaco, Amiens-Dijon, Nîmes-Nantes, Brest-Nice et Toulouse-Reims. Et juste un résultat de Ligue 2. Lens a battu l'AC Ajaccio 2-1. Les Lensois consolident leur deuxième place au classement.
Il nous a rejoint en studio. Bonsoir Lionel Rosso.
Bonsoir Wendy.
Europe 1 Sport à partir de 20h. Et cette question pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, et pas que, les observateurs aussi. Jean-Michel Aulas ne serait-il pas prisonnier de ses supporters qui mèneraient un peu trop la danse?
On en débattra ce soir au cœur de notre multiplex avec nos experts. En effet, car Jean-Michel Aulas actuellement marche sur des œufs, j'ai même envie de dire qu'il marche sur un terrain miné, qu'il a lui-même fabriqué, tout simplement en prenant des décisions. L'année dernière, il s'est séparé de Bruno Genesio à la demande des supporters, très très forte pression de la part des supporters de Lyon qui n'aimaient pas Bruno Genesio.
La démocratie participative.
Absolument, et aujourd'hui, la situation se reproduit avec un joueur, Marcelo. Les joueurs le détestent, ils veulent qu'il s'en aille. Il y a eu même des actions et des réactions assez véhémentes de la part d'autres membres de l'équipe contre ses supporters, notamment le capitaine Memphis Depay, récemment en étant solidaire de Marcelo. Quelle que soit la décision que prendra désormais à ce sujet-là, et d'autres aussi, Jean-Michel Aulas, en direction des supporters ou de la gestion du club, sera lourde de sens, quoi qu'il arrive, toujours en direction de ses supporters qui apparemment, s'ils ne font pas la loi, ont un vrai pouvoir de nuisance.
Ce sera l'un des débats du soir à partir de 20h sur Europe 1. Merci Lionel. Le foot aussi à l'étranger, Christophe.
Liverpool poursuit son cavalier seul en tête de la Première Ligue anglaise. Victoire 2-0 des Reds face à la lanterne rouge Watford. Mohamed Salah signe à doubler. Liverpool est toujours invaincu en championnat cette saison après 17 journées.
La Coupe du Monde de ski alpin encore ratée pour Val d'Isère qui doit reporter le slalom.
Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même? Ouais, réponse, parce qu'on n'a pas toujours le choix. Le vent soufflait trop fort et a donc obligé les organisateurs à reporter le slalom. Les skieurs comme Alexis Pinturo vont donc rechausser les skis demain. Le Français salue une décision qu'il juge sage, mais n'allez pas croire que cela ne change rien pour lui.
C'est des journées qui sont généralement longues. Finalement, c'est vrai qu'elle a été un peu plus courte que prévu, hein. Mais ça prend quand même de l'énergie, ouais, exactement, mentalement surtout. Après, bon, bah, on se lève quand même aussitôt, nerveusement, ça pompe. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait comme une journée de repos. On peut pas la prendre comme telle. Ouais.
Alexis Peintureau qui sera donc au départ du slalom de Val d'Isère demain matin. Première manche programmée à 9h30, la deuxième à 12h30. Le géant qui devait avoir lieu lui aussi ce dimanche est reporté à une date ultérieure et dans une autre station.
Mmh. La natation également au programme avec les championnats de France. Petit bassin à Angers et retour réussi pour deux jeunes retraités, on peut dire ça.
Oui, Florent Manaudou décroche le titre sur 50 mètres nage libre. Amaury Levaux, lui aussi sorti de sa retraite, réalise le quatrième temps. Les deux Français visent bien sûr au-delà de ces championnats. Ils ont un objectif, se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Ce n'est pas pour déplaire au directeur technique national, Julien Issoulier.
C'est rigolo de les voir revenir, après on les revoit sur le 50, même si c'est des champions qui sont peut-être un peu plus âgés, ça reste des nageurs qui ont été des très 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 grands nageurs, donc c'est pas étonnant qu'ils soient à ce niveau-là, parce qu'ils s'entraînent tous les jours et qu'ils veulent eux aussi essayer d'aller au jeu, donc voilà, ils sont en train de se préparer à ça.
Julien Issoulier au micro de Loïc Folio.
Et puis un mot de rugby.
Lyon s'incline face à Trévise 25-22 et dit adieu à la qualification pour les quarts de finale de la Champions Cup. D'écart pratiquement assuré pour Toulouse, vainqueur de Montpellier 26-18. Bonus offensif en prime.
Le retour de Christophe Damar à 19h sur Europe 1.
À suivre le rappel des titres de l'info de ce samedi, la météo des neiges et ensuite
le chapiteau d'Alexis Grus au cœur d'une piste de 13 mètres qui associe le rêve et les chevaux à la découverte d'une grande famille ce soir.
Il est 18h32, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1.
D'abord un point sur l'information avec vous, Sophie Tussaud, en ce 14 décembre. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Édouard Philippe prévient les grévistes décidés à poursuivre la grève à une semaine du début des congés de fête de fin d'année. Dans un entretien à paraître demain, il appelle chacun à prendre ses responsabilités pour Noël. Et la grève dans les transports se poursuit, 11e journée. Demain, toujours beaucoup de perturbations, un TGV sur 4, un TER sur 3, un Transilien sur 5. À Paris, seules deux lignes de métro sur 16 fonctionneront normalement, la 1 et la 14. Le RER A sera également totalement interrompu. 25 000 foyers toujours privés d'électricité ce soir dans l'ouest de la France, notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Normandie. 11 départements du sud-ouest restent en vigilance orange aux inondations. La préfecture de Seine-Maritime se veut rassurante. Aucun risque sanitaire après l'important incendie ce matin dans une raffinerie de Total du Havre. Les mesures de confinement prises dans la matinée ont été levées. Et cet incendie survient alors que l'usine Lubrizol de Rouen reprend progressivement ses activités aujourd'hui. La préfecture a donné son autorisation 2 mois et demi après le violent incendie qui a ravagé le site industriel.
Merci Sophie.
Partez au ski en toute sécurité avec les pneus hiver Hankook. Des pneus aux performances optimales, même par temps froid. Hankook vous présente la météo des neiges.
Le temps en montagne, que donne-t-il Valérie Darmon ?
Eh bien, c'est un ciel parfaitement ensoleillé, remarquablement doux, quasi estival, qui s'installe sur les Vosges et le Jura ce dimanche avec 15 degrés annoncés sur les crêtes et les ballons vosgiens. Dans le Jura, les très belles éclaircies du matin sont progressivement contrariées l'après-midi par des voiles nuageux remontant par le sud, mais ne gâchant pas l'impression de beau temps. Haute-Savoie et Savoie, voiles de nuages d'altitude devenant denses au fil des heures, resteront quelques rares précipitations en Savoie l'après-midi. Les vents Fun et Lombarde restent désagréables près de l'Italie, comme en Vanoise, avec des rafales à 50-70 km/h. Les températures sont douces à 1500 mètres, 7 à 14 degrés et à 2000 mètres 4 à 12. Attention toujours au fort risque d'avalanche. Sur les Alpes du Sud, les nuages encombrent le ciel, laissant peu de chance au soleil. Et sur les Pyrénées occidentales, le temps est très nuageux, apportant un petit peu de neige faible au-dessus de 2000 mètres.
Merci Valérie Darmon. Et maintenant, Annie Bouchard, vous nous faites découvrir une famille de cirque, celle portée avec amour par Alexis Grus. C'est la 5e génération qui crée un tout nouveau spectacle, les Folies Grus, en ce moment à Paris. Et on est un petit peu dans l'esprit cabaret. Hein.
Et comme chaque année, les Grus ont installé leur chapiteau Porte de Passy dans le bois de Boulogne à Paris. Ce soir, en effet, ils viennent nous parler de leur art. Et à 10 jours de Noël, on pousse ensemble les lourdes toiles de velours qui révèlent la piste et sa magie. J'accueille dans ce studio 3 générations, Alexis, Firmin et Jeanne Grus sont avec nous. Bonsoir à tous les trois.
Et bonsoir.
Bonsoir. On va faire un petit jeu, vous allez vous présenter mutuellement. Jeanne, tu as 13 ans.
Oui.
C'est ça. Comment tu décrirais ton grand-père qui fait face à toi, Alexis, fondateur en 1974 de ce cirque à l'ancienne ?
Alors mon grand-père, moi je le définirais comme mon modèle. Mmh.
mon grand modèle et j'essaye de prendre exemple sur lui.
C'est magnifique ça. Vous Alexis, comment on voit l'un de ses fils qu'on scrute au quotidien, Firmin, partager justement cette passion du cirque?
Moi j'ai trois passions, la famille, les chevaux et la piste. Si on en supprime un des trois, rien n'existe.
L'équilibre est rompu.
Et mes enfants, c'est ça. Et mes petits-enfants, c'est ça. Et mes arrière-petits-enfants, ce sera ça. La plus belle chose, vous l'avez dit dans le début, c'est la transmission. Et vous ne pouvez retransmettre que ce que vous avez appris.
Et comment ça se fait, Firmin? Est-ce que ça se fait avec les encouragements, avec les critiques?
C'est sûr que l'éducation est une étape importante, mais après, la particularité, c'est d'avoir son identité et de la développer, et de l'affirmer. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de travailler en famille? Bien sûr que c'est difficile, mais on a des avantages et satisfactions que peu de personnes peuvent éprouver aussi dans d'autres domaines.
Bien sûr, il y a fatalement un peu plus d'exigences, vous diriez, Alexis?
La première chose que je dis à mes enfants, à mes petits-enfants, ne faites pas entrer la comptabilité dans la famille parce que c'est une catastrophe.
Oui.
La comptabilité, lui, il a fait plus, l'autre, il a fait moins, il a touché plus. Si ça commence comme ça, la famille n'existe plus. La famille, c'est vraiment un état d'esprit qui réunit l'ensemble. Moi, ma politique, c'est chacun chez soi, mais tous ensemble. C'est exactement comme ça que tient la Comédie française.
Voilà comment parlent vos modèles, tes modèles, Jeanne, je vais te tutoyer. C'est une famille unie, qui bouge, qui sort, qui lit. Raconte-moi un petit peu ta vie, parce que tu fais l'école par correspondance aujourd'hui,
oui.
Comme la plupart de tes cousins, de tes sœurs. Oui.
Je fais l'école avec le CNED.
D'accord.
Et j'ai une prof sur place, et on est deux à l'école,
oui.
Ma sœur et moi.
Ta sœur qui a quel âge?
Qui a 9 ans.
Qui a 9 ans et qui est aussi dans ce spectacle. On vous voit en habit rouge, on vous voit en habit cabaret aussi. Tu prends toutes ces images pour bien les garder en tête et pour grandir avec.
Ouais, oui, j'essaye de chaque moment, chaque spectacle, essayer de garder l'image et comme ça me fera un souvenir.
Oui, et tu sais déjà quel chemin tu prendras dans ce cirque, dans cette famille du cirque?
Bah oui, déjà je monterai à cheval, ça c'est sûr.
Ouais. C'est l'une des plus belles fiertés, Firmin, comme votre frère Stéphane qui voit ses fils accomplir des numéros exceptionnels, d'imaginer que bientôt ses filles prendront le relais.
Il faut que chaque chose se fasse en son temps. Mmh. C'est ça, je pense, qui est le plus important quand on a une lignée telle que la nôtre, c'est de ne pas se mettre non plus en permanence une pression et savoir que les choses arrivent toujours un jour ou l'autre.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est à la fois le cirque, l'école de l'hyperactivité, parce qu'on vous voit apprendre à tout faire, et en même temps l'école de la lenteur, Alexis.
Oui, c'est le propre de l'être humain, le temps. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est accordé? Ça, c'est là est la question, la vraie question. Et dans la transmission, par exemple, Firmin, il a pris cette orientation sur l'administration, l'organisation, la communication et tout ça.
Oui.
C'est pas moi qui lui ai
ça
dit de
faire.
Ça s'est
fait naturellement.
Mais bien sûr.
C'est ça qui est magnifique.
Ben
ouais,
oui, mais
on peut pas décider, décréter.
Et Stéphane, il s'est depuis très longtemps. Tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain.
Dans la mise en scène.
Et Stéphane a commencé avec la mise en scène. Il a commencé d'abord avec la musique parce que c'est un très bon musicien. Et puis petit à petit, il s'est intéressé à la mise en scène. Et aujourd'hui, les deux frères sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre.
Et derrière cette administration, cet entourage, il y a évidemment tous les numéros que vous faites, Firmin. Vous êtes encore une fois époustouflant dans les numéros d'acrobatie aérienne, avec votre épouse, dans les numéros de voltige, le numéro de l'échelle. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on vous voit prendre justement, vraiment par la main, le spectateur, lui montrer un petit peu toutes les vies du cirque, tous les métiers du cirque.
J'ai cette particularité d'avoir toujours su m'adapter. Je pense que tout petit, on savait pas trop. On m'a dit récemment qu'on savait pas trop ce que j'allais faire en grandissant. Mais c'est vrai que j'aime tout. Dès que je touche à quelque chose, ça me plaît. Et apparemment, je suis doué. Et en travaillant, j'arrive à faire des choses assez incroyables, comme le numéro avec mon épouse, où je lui ai dit j'aimerais qu'on fasse un tableau à cheval à deux. Elle me dit j'aime pas trop les chevaux, j'en ai peur.
Oui.
Et elle me dit je préférais qu'on fasse quelque chose d'aérien. J'ai dit moi j'ai jamais voltigé dans les airs.
Eh ben, c'est impressionnant.
J'ai dit
hein.
On va faire, j'ai une idée, on va cultiver, on va préparer un tableau où il y aura l'équestre et l'aérien. Et on a réussi à faire un tableau qui ne s'est jamais produit auparavant,
oui.
Et de faire une vraie création.
De ces folies russes quand tu vois ton papa faire ça, qu'est-ce que tu ressens, Jeanne?
Je me dis que bientôt ce sera à moi de faire quelque chose comme ça.
De prouver?
Oui.
Ouais, tu as envie de prouver des choses?
Oui.
Comment ça se passe, l'idée directrice, Alexis? C'est que d'abord c'est les études.
Mais mes trois petits-enfants, Charles, Alexandre et Louis, ce sont trois bacheliers.
Oui, super.
Et le quatrième qui arrive, Joseph, a déjà passé son brevet cet été.
Oui.
Et il va passer le bac, ça c'est sûr et certain. Ça c'est indissociable aujourd'hui, c'est incontournable.
Mais on peut faire les études et être sur la piste en même temps, pour vous.
Oui, c'est le système de sport-études.
Oui.
Et l'institutrice enseignante qui est avec mes petits-enfants,
oui.
Elle est payée par le CIR, et c'est une femme extraordinaire. Françoise, c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris et puis qui aime énormément notre famille.
Bien sûr. C'est aussi l'école de la rigueur. On parlait de transmission, c'est le mot qui revient le plus, Firmin. Dans ce qui vous entoure, moi je me souviens des premières rencontres avec vous, Alexis, dans cette caravane, dans cette roulotte, la musique extrêmement présente, oui. Le cinéma extrêmement présent. Tous ces arts-là, vous avez été baigné dedans, Firmin, aussi.
Oui, bah oui,
ça vous a construit.
Dans Itinéraire d'un enfant gâté, je prends la place de Belmondo petit dans la cage.
Magnifique et ça, film de Lelouch.
Des moments exceptionnels, surtout quand... On a croisé Lelouch la dernière fois qui nous a dit que c'était resté un des meilleurs films aux États-Unis.
Ah.
C'est flatteur et puis c'est vrai que c'est un film qui est magnifique.
Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Avec le nez rouge et le cœur en larmes, qui m'aimera quand je ne serai plus que la moitié d'une femme?
On est tous musiciens dans la famille, on a tous appris avec notre grand-père à jouer de la grosse caisse dès l'âge de 5 ans et à accompagner la trompette. Et puis, ça, forcément, ça forge.
Et ça, c'est resté une identité dans votre spectacle. Un orchestre en live, une chanteuse pour ce spectacle-là.
Oui, ouais.
Ça fait partie de la philosophie d'Alexis Grus.
Oui, oui, ben parce que ça sont des ingrédients incontournables. Le vrai problème que nous avons dans notre famille, c'est d'avoir dans la bouteille ce qu'il y a sur l'étiquette.
Oui.
Ça, c'est très rare aujourd'hui. Oui. Et vraiment, le cru Grus de cette année est 100% Grus. Avec quelques assemblages, quelques cépages qu'on ajoute. Parce que
tous les raisins sont mis en lumière.
Oui. Et ça, c'est valable pour tout, pour toutes les entreprises. Si vous voulez modifier le contenu et vous gardez la même étiquette, au bout d'un moment, ça ne marche plus.
Non, c'est vrai qu'on sait ce qu'on va voir quand on va voir les spectacles d'Alexis Grus. Est-ce que toi, par exemple, Jeanne, tu sors avec tes parents, tes grands-parents, voir ce que font les autres cirques, les autres spectacles pour t'inspirer un petit peu?
Alors oui, surtout avec ma prof, on va voir beaucoup de théâtre. Avec mon père, des spectacles.
Oui. Tu as besoin de ça aussi pour voir ce qui se fait ailleurs.
Oui, ça m'inspire et ça donne toujours. Enfin, ça fait toujours plaisir.
Oui, et ça, c'est important de le dire aussi aux auditeurs qui ignoreraient un peu cette vie du cirque. Vous ne vivez pas en vase clos, vous ne vivez pas enfermé dans vos caravanes et dans l'enceinte d'un périmètre défini.
Moi, je sais que
vous êtes ouvert sur le monde.
Ma rencontre avec Sylvia Montfort en 1974 a été déterminante pour la suite de ma vie, pas seulement de ma carrière d'artiste ou autre,
oui.
Mais l'influence du théâtre. On avait déjà été influencé par le théâtre, parce que ma mère adorait le théâtre et mon père aussi, et on allait très souvent au théâtre. Mais la rencontre avec Sylvia, au niveau des éclairages, au niveau des décors, au niveau de remettre des tapes noires, ce qui est des rideaux en velours noir,
oui.
Avec un costume de clown blanc devant un rideau en velours noir, c'est comme un diamant dans un coffret... Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec l'étoile rouge et jaune. Ou... Nous, ce qui nous intéresse dans notre famille, c'est que les étoiles soient dans les yeux des spectateurs. Quand les artistes sont brillants.
Oui, et ça c'est très juste ce que vous dites, il y a des moments de poésie toujours dans ces spectacles-là que vous concoctez en famille, Firmin, je pense au moment où vous arrivez sur scène et vous tendez deux étuis rouges d'où s'échappent des longues cravaches, des chambrières pour amener les chevaux à faire les numéros, à danser. Ça, ce sont des moments un peu suspendus où il y a l'esthétique, où il y a la transmission, où il y a le goût des belles choses, Firmin, et vous y tenez toujours.
Bien sûr, c'est notre ADN. Il n'y a pas de détail qui doit être laissé au hasard.
Oui.
Quand on est besogneux, c'est exactement... On se remet en question sans cesse. Nous, on a une particularité de changer de spectacle tous les ans depuis qu'on est né.
Ça veut dire combien de créations, pardon, parenthèse ?
45, voilà. Et cette année, au-delà de la création, on a voulu donner une nouvelle identité à notre lieu, à notre espace, qui est réalisé par une particularité que des membres de la famille, Alexis Grus et les 50 chevaux. Créer un lieu où on peut se restaurer avant, avec un pré-show, avec de la musique live en permanence. On peut accueillir les entreprises. Il faut faire évoluer notre métier.
C'est ce que j'allais vous dire, voilà.
Il faut faire évoluer notre métier.
Au-delà des polémiques et au-delà des ajustements du public, vous avez envie d'avancer avec, pour que le cirque car c'est son ADN aussi, mute et se transforme toujours.
Ben, chez nous, on ne parle même plus de cirque parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à donner la définition du mot cirque.
Oui.
Et il faut qu'on prévoie notre avenir. Mmh. C'est pas, on a dépoussiéré ce métier, on lui a apporté les dernières technologies, on lui a apporté tout ce que...
C'est vrai.
Tout ce que
peuvent... Il faut que le public le sache. Ouais.
Oui, c'est important.
Alexis.
Quand on parle de cirque, pour moi, parce qu'on fête les 250 ans.
250 ans de la piste.
Certainement que ça existait avant, mais les 13 mètres de diamètre ont été découverts par un Anglais qui s'appelait Philippe Astley.
C'était au cœur de votre spectacle, Origine. Hein,
oui, mais parce que la piste, pour ça, c'est ça notre ADN.
C'est ça.
Pourquoi ? Parce que la forme de l'espace scénique est circulaire, donc infinie, et que la matière l'est aussi. Mmh. Et en plus, la matière, elle n'est pas seulement infinie, elle est fertile. Mmh. C'est le seul espace scénique au monde où les hommes et les chevaux peuvent évoluer, et où, si vous semez, ça pousse.
C'est vrai.
Avec un ingrédient fertilisant incontournable, le crottin de cheval.
Ouais. Donc en fait, c'est la piste aux étoiles. Il n'y a pas une plus belle formule, peut-être, pour vous, la piste aux étoiles.
Oui, mais elle a été galvaudée, cette formule.
C'est vrai.
Parce que c'est Hemingway qui avait dit « Le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. » Et Nougaro me dit « Toi, Gruss, ton cirque, c'est un oiseau, mais cet oiseau ne se pose pas sur les branches, mais sur les racines. » Ça, pour moi, c'est la plus belle récompense qu'on ait pu
me dire. Magnifique. J'ai commencé avec toi, Jeanne. J'aimerais qu'on termine avec toi cette interview. Si tu devais, toi, t'adresser aux auditeurs qui ne connaissent pas encore la famille Gruss, qui ne connaissent pas les Folies Gruss, comment tu les appellerais à venir découvrir votre monde ?
Alors, je les appellerais en leur disant que le spectacle, c'est pour moi, quand j'étais petite, quand je regardais toute ma famille travailler sur la piste, et ben, ça me faisait rêver. Et quand je me dis que bientôt, ce sera mon tour, et ça me fait rêver encore plus.
C'est-à-dire que tu t'adresses aussi à tous ceux de ta génération pour leur dire, venez voir un peu ce qu'on est capable de faire encore nous,
oui,
dans cette belle philosophie, avec 50 chevaux exceptionnels. Merci infiniment de nous avoir fait partager un petit peu la manière dont on se transmet justement cet art. Jeanne Gruss, Firmin Gruss, Alexis Gruss, il y a le speaker normalement qui fait ça au début, à la fin du spectacle, il le fait mieux que moi. On salue toute la famille, Stéphane, Gypsy, Maud, Charles, Alexandre, tous ceux qui nous écoutent encore. À très bientôt, vive les Folies Gruss, c'est du jeudi au dimanche, il y a deux représentations les week-ends, c'est à la Porte de Passy au Bois de Boulogne, et puis on vous souhaite le meilleur du monde dans cet univers rude.
Merci,
merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à suivre, Wendy Bouchard, une chanson dans la tête.
Et oui, Fabien Lecoeuf nous a rejoint. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Hier, c'était vendredi 13, et cette date vous a donné envie de vous arrêter sur les porte-bonheur des chanteurs.
Évidemment, puisque tous les artistes, depuis très très longtemps, ont tous un porte-bonheur, un petit gris-gris comme ça, avant de monter sur scène, ou pas d'apparaître en tout cas en public.
Voilà, on respire encore avant l'actu, le mouvement social et nos invités.
18h50, le grand journal du soir, la suite avec une chanson dans la tête. Et ce soir, Wendy Bouchard, lendemain de vendredi 13, eh bien, on fait la lumière sur les superstitions des artistes.
Voilà, comme il vous l'a dit, Fabien Lecoeuvre, la manière de conjurer le sort et de se porter chance. Vous avez choisi une dizaine d'histoires, probablement inconnues des auditeurs. Hein.
Oui, là,
tout est authentique, cher monsieur. On va commencer, si vous le voulez bien, avec Mademoiselle Lynn Renaud.
La Copacabana, le point le plus chaud de la Havane.
Copacabana, chanson de 1979,
c'est-à-dire 40 ans cette année.
Et ben voilà. Alors...
C'est dire. Alors, Lynn Renaud, elle n'échappe pas à la règle, évidemment, cette artiste merveilleuse qui a triomphé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Arte. C'était le 6 décembre dans Huguette avec 2 millions de téléspectateurs. Pour Arte, c'est l'audience de l'année, on peut le préciser. Alors, Lynn Renaud, bien sûr, a plusieurs fétiches. Alors, d'abord, une robe de chambre turquoise, pleine de trous, qu'elle emmène partout. En fait, c'était un cadeau de sa grand-mère qui était couturière et qui lui avait confectionné pour sa première à l'ABC. Tenez-vous bien, en 1950, à l'époque, elle chantait Ma cabane au Canada.
Oui.
Alors, elle ne part jamais non plus, Lynn Renaud, dans ses bagages, sans oublier évidemment une photo de Loulou Gasté et de sa maman, que j'ai connue d'ailleurs, qui a été merveilleuse. Et puis surtout, elle met aussi dans sa valise une statuette de Sainte Thérèse. Alors, une petite statuette, je rassure, qui appartenait à sa mère. Et c'est un bibelot porte-bonheur pour elle. Voilà, à chaque fois, elle signe des contrats.
Aussi dans ses loges. Et...
Absolument. Quand elle était petite, elle faisait sa prière devant Sainte Thérèse pour qu'elle monte à Paris, pour que son vœu soit exaucé de réussir dans ce métier.
Ça lui fait un point commun avec Piaf qu'on évoquera tout à l'heure. De Lynn Renaud à Céline Dion.
Ah oui.
Un gris-gris pour Céline Dion aussi.
Un gris-gris, puisque dans 16 jours, une année commence. 2020, elle sera bien sûr à Paris. Vous savez, entre le 26 juin et le 4 juillet 2020, il faut le rappeler, pour tous ses fans. Et surtout, elle a un gris-gris. Alors, c'est un nouveau gris-gris qu'elle a à peu près depuis 3 ans. C'est l'empreinte de la main de René,
Flo
en latex. Mais en latex, là, l'empreinte. Donc, à chaque fois qu'elle se lève le matin ou chaque fois qu'elle monte sur scène, elle serre la main à René comme un porte-bonheur, comme un talisman. Et paraît-il que c'est très efficace. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est des études très sérieuses ont démontré que ces petits rituels participent à la concentration et à la confiance en soi, paraît-il. Deux composantes essentielles pour une bonne prestation. Je précise que Raymond Devos, un jour, je suis allé chez lui, il m'avait montré aussi, il avait fait l'empreinte de la main en bronze, là, par contre, de Victor Hugo. Et tous les matins, quand il se levait, il serrait la main de Victor Hugo. Pour lui, c'était un symbole.
Un petit geste, comme le coup de vin, de verre de vin rouge hein, qu'affectionnent la plupart des artistes chanteurs.
Absolument.
Hein, avant la chanson.
Voire pas que le vin rouge.
Joséphine Baker, elle ne serrait pas la main d'une main, mais la main d'une patte.
Ah non, Joséphine Baker, ça c'est quand même incroyable.
De lapin.
Alors elle avait comme porte-bonheur une patte de lapin. Ce qui est quand même assez étonnant. C'est en 1916, à l'âge de 10 ans, Joséphine va demander du travail dans une boîte. On l'engage comme figurante à 9 dollars par semaine, vous imaginez. Eh bien, 6 ans plus tard, elle en gagne 20 à Broadway et elle ne quitte pas justement cette patte de lapin que lui avait offert un voisin. Elle ne la quitte jamais, c'est-à-dire pour elle, elle a été engagée à chaque fois, elle avait cette patte de lapin sur elle ou sur sa table, dans sa loge. Et avant toutes les premières, elle caresse comme ça sa patte de lapin avant de monter sur scène. Et un jour, bien sûr, une danseuse lui a volé la patte de lapin. Et alors là, la danseuse était renvoyée, elle a refusé de monter sur scène. Enfin, ça a été un scandale énorme pour Joséphine Baker.
Si on reste dans la génération de Baker, la reine de Paris, Miss Tinguette aussi,
Miss Tinguette qui a été la reine de Paris. Elle avait le chiffre 13, un peu comme Claude Carrère ou Sheila. C'est-à-dire, la chanteuse-actrice Jeanne Bourgeois, plus connue sous le nom de Miss Tinguette, était persuadée que le chiffre 13 était son véritable talisman. Donc elle portait toujours une montre en or gravée au chiffre 13 qui atteste sa croyance dans la vertu de ce nombre, comme beaucoup d'ailleurs de Français. Et elle portait cette montre, elle avait une montre justement gravée au chiffre 13, elle la portait en permanence. Et un jour, une bombe tombe sur son hôtel en 1918, c'est à Londres. Et c'est une des rares personnes qui échappe à cet attentat, on oublie de le rappeler. Miss Tinguette avait échappé à cet attentat à Londres. Et puis Tonovia, en quittant Londres, elle venait à peine de quitter la capitale anglaise. Elle reprend le bateau, elle traverse la Manche et son bateau échappe à deux torpilles allemandes.
Ouais,
donc elle n'a jamais quitté sa montre de sa vie. Et alors elle faisait graver le nom 13 partout. Elle avait, je sais qu'il y a 3 ans à peu près, j'ai vendu aux enchères, enfin en tant qu'expert, le sextoy de Miss Tinguette en bois de hêtre.
Ok, donc il est vraiment partout.
Il est partout. Et alors au dos du sextoy qui est en bois.
Je peux savoir qui l'a acheté?
Ah, c'est un musée de l'érotisme à Amsterdam qui a acheté cet objet signé de Misty au dos avec le chiffre 13.
Incroyable.
Et qui était la reproduction d'un de ses amants de l'époque. Je ne donnerai pas son nom ce soir.
De Miss Tinguette à Patrick Bruel.
Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe.
Alors c'est un autre chiffre qui colle à la peau de Bruel, mais c'est pas le 13.
C'est pas le 13, c'est le 14, Wendy. Alors le 14, vous savez que Bruel est né le 14 mai, et le 14 c'est non seulement donc son jour de naissance, mais aussi son chiffre porte-bonheur absolu. C'est aussi le numéro de son joueur fétiche à l'Ajax, c'est Johan Cruyff, il en était fou quand il est petit, il avait tous les posters au mur de sa chambre, le petit Patrick Bruel. Sa société de production de Bruel s'appelle aussi 14 Productions.
Ah.
Et la première audition qu'il a faite, en tout cas, pour rentrer au cinéma, c'était un 14. Le premier contrat de disque a été signé un 14 également. Et quand vous l'avez en voiture, comme tous les grands joueurs de poker, il additionne les plaques minéralogiques des voitures qui sont devant, vous savez. Et si ça fait 14, c'est un jour de chance pour lui.
Ah ouais.
Donc voilà, avis aux grands superstitieux pour les nombres.
On salue Claude Lelouch qui nous écoute peut-être. Le 13, c'est son chiffre à lui.
Ah oui, absolument.
On va parler d'un autre chanteur, l'autre génération. Tiens, M. Pokora, petit extrait. Il est là ? Il danse toujours ?
Alors,
il
danse. Quand je danse, oui.
Bah, voilà.
Quand tu danses, des planètes.
Alors, le porte-bonheur de M. Pokora.
Le porte-bonheur de Mathieu, c'est un pendentif. C'est son porte-bonheur, un pendentif argenté et strassé en forme de croix. Il le garde toujours sur lui avant d'entrer en scène et il le serre très fort dans sa main droite avant de monter sur scène. Paraît-il que ça lui donne de l'énergie. C'est un cadeau d'un ami, je ne sais pas lequel, il ne m'a pas précisé, mais c'est un cadeau très cher pour lui. Et il ne le
quitte jamais. Qui transmet un fluide, manifestement.
Paraît-il, voilà.
Je voudrais qu'on termine avec une histoire très belle, celle d'Edith Piaf.
Ah oui, alors Piaf, c'est incroyable. Alors, elle était d'une superstition évidente. Et puis, elle avait une montre, en fait, tout simplement, que lui avait offert Jean-Louis Jaubert. Alors, Jean-Louis Jaubert, c'était l'un des compagnons de la chanson, fiancé à Edith Piaf, juste avant Marcel Cerdan. Et en 1947, le jeune Jean-Louis Jaubert lui offre une montre de chez Boucheron. Et grâce à cette montre, elle signe un contrat extraordinaire à New York. Le jour où elle signe le contrat, et on lui propose en tout cas ce contrat, elle a sa montre sur elle, qu'elle ne mettait jamais, mais qu'elle porte enfin. Mmh. Elle signe un contrat important pour une semaine au Versailles, grand club new-yorkais. Au lieu d'une semaine, elle y restera pratiquement 2 ans et demi. Mmh. Elle rencontre également, grâce à cette montre, Marcel Cerdan. Elle n'empêchera pas de lâcher Jean-Louis Jaubert au profit de Marcel Cerdan. Évidemment, c'est comme ça, les amours. Hein. Mais enfin, elle n'a jamais quitté sa montre. Elle offrira en tout cas 21 montres à ses amis.
La même ?
La même montre, parce qu'elle trouvait que ça portait bonheur à tous les gens. Oui. Elle écrira avec cette montre aussi l'hymne à l'amour, bien sûr, 44 jours avant la disparition de Marcel Cerdan. En tout cas, elle ne quittera jamais cette montre jusqu'en 1963.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. De ma porte, si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
Edith Piaf sur Europe 1 et les anecdotes de Fabien Lecoeuvre, les porte-bonheur des artistes.
Et ma montre, il est 18h58, je ne sais pas si ça porte bonheur, en tout cas, il y a le journal de 19h qui suit. Oui,
ne bougez pas, chers amis.
À tout de suite.
Il est 19h.
On a fait des grèves de 24 heures reconductibles. C'est au jour le jour que les agents se positionnent. Et moi, je ne peux pas dire comment se positionneront les gens le 23 ou le 24 décembre.
Y aura-t-il des trains à Noël ? La question se fait de plus en plus entendre alors que les fêtes approchent et que les syndicats ne semblent pas prêts à faire une pause dans leur mouvement.
Un mouvement qui force en tout cas les Français à trouver un plan B pour l'organisation de la fin de l'année.
Une fillette de 2 ans sauvée grâce à une application sur smartphone. Une alerte a été lancée et 2 femmes ont pu intervenir.
Sans cette application, je pense que la petite fille ne serait peut-être pas sortie vivante de l'histoire. Et les pompiers m'ont dit que ça l'avait sauvée.
Moins de 3 mois après le violent incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, le site industriel reprend progressivement son activité. Une réouverture controversée.
On ne va pas faire croire que la palissade va empêcher la toxicité. On a bien compris que l'industriel est au-dessus de tout le monde. Ce qui compte, c'est son argent, la santé. Ils n'en ont rien à faire.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus à l'écoute de votre grand journal sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Y aura-t-il une pause dans la grève contre la réforme des retraites, à entendre le syndicat Sudrail tout à l'heure? N'en est pas question. Au contraire, le mouvement s'enracine et pourrait impacter les fêtes de fin d'année.
Oui, sans train, impossible de se rendre auprès de ses proches. Du coup, Élise Dangean, chacun tente de trouver un plan B.
Absolument. Tous ceux qui avaient réservé un train pour le week-end prochain ont reçu un mail de la SNCF hier soir. Rendez-vous mardi pour savoir si leur trajet est maintenu. Anne, qui doit prendre le train samedi prochain direction Angoulême, attend donc mardi avec impatience.
On verra mardi si notre train est maintenu, tant mieux. S'il est annulé, on devra partir sur un autre train qu'il nous propose, ou si vraiment c'est compliqué, on louera une voiture. Et l'avantage d'être informé dès mardi, c'est que ça permet de se retourner entre mercredi et samedi. C'est toujours agréable au moins de savoir qu'ils sont en train de travailler sur le sujet et qu'on va avoir des informations suffisamment en amont pour s'organiser.
Alors si certains trouvent la crise plutôt bien gérée par la SNCF, d'autres doutent. C'est le cas de Jean-Philippe, 52 ans. Sa fille fait ses études à Nancy. Elle doit aussi prendre le train samedi prochain pour rentrer à Paris.
On est inquiet. Il y a beaucoup de points d'interrogation quoi, dans l'histoire. Même s'il y a des prévisions, c'est très bien qu'il va y avoir un truc dernière minute. Il n'y aura pas des centaines de trains pour faire du Nancy-Paris. Voilà donc une belle galère devant nous.
Et pour certains, la galère est double. Comme pour Iris et sa famille, ils doivent se rendre en Allemagne pour les fêtes. Maman et les enfants en avion, papa et le chien en train. Double interrogation donc et beaucoup d'appréhension.
C'est déjà très compliqué pour aller travailler et on a au moins envie de partir en vacances et si c'est pas possible, c'est vraiment embêtant.
D'autres sont plus radicaux et m'ont confié être prêts à annuler leur plan pour Noël. Ils le fêteront donc en janvier.
Merci Élise Dangean.
Pour l'UNSA ferroviaire, le conflit s'enracine davantage et il est de moins en moins certain que les cheminots acceptent de faire une pause dans la grève, comme le demande la SNCF. Écoutez Didier Matisse, le secrétaire général du syndicat.
Moi, je reste très prudent parce que sur un conflit qui est maintenant très long, on a fait des grèves de 24 heures reconductibles. Donc, c'est au jour le jour que les agents se positionnent. Et moi, je ne peux pas dire comment se positionneront les gens le 23 ou le 24 décembre. Donc, à moins que Rachel Picard ait soit une boule de cristal, ou alors elle a peut-être eu vent de décision que le Premier ministre allait prendre par rapport à la réforme des retraites, et qui irait dans le sens de nos revendications. Il y a eu également une vidéo de Jean-Pierre Farandou pour justement appeler les cheminots à faire une trêve pendant la période de Noël. Là également, je trouve que l'annonce est prématurée parce qu'il reste quand même énormément de jours avant Noël, et notamment après la manifestation massive qui aura lieu le 17 décembre. Donc tout peut changer.
Didier Matisse répondait à Justin Morin pour Europe 1. Et ce soir, Édouard Philippe prévient les grévistes que les Français risquent de ne pas accepter d'être privés des fêtes de Noël. Dans un entretien aux Parisiens, paraître demain, le Premier ministre appelle chacun à prendre ses responsabilités. À demain donc, 11e journée de grève et toujours beaucoup de perturbations avec un TGV sur 4, un TER sur 3, un Transilien sur 5. À Paris, deux lignes de métro sur 16 fonctionneront normalement, la 1 et la 14. Le RER A sera également totalement interrompu et il y aura un train sur 3 sur la ligne B.
Et à 19h30, on refait l'actu avec le sociologue Michel Vivorca qui a scruté les files d'attente sur les quais des métros ces derniers jours, les embouteillages monstres et qui nous parlera des Français et de leur rapport au travail. Dans ce contexte de grève, Sophie Tussaud, les déplacements sont limités et les salles de spectacle sont désertées.
Les représentations sont annulées ou se déroulent devant des salles quasi vides, une catastrophe pour les artistes. Nicolas Briançon, acteur et metteur en scène, engage les Parisiens à sortir.
Venez au théâtre, c'est très important. Venez au théâtre. Allez dans les salles, allez au concert, allez à l'opéra, allez voir des ballets, allez au théâtre, allez au spectacle vivant. C'est fondamental. Pour des spectacles qui démarrent, par exemple, au mois de décembre en ce moment, ou qui se situent un peu plus loin du centre de Paris, je pense à la scène musicale, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des spectacles qui ne s'en remettront pas. Je pense au très beau spectacle que fait Pierre Richard au théâtre de l'Atelier qui démarre. Et les gens n'y vont pas. Ils ont à peine eu l'info et de toute façon, c'est tellement épuisant de survivre dans Paris, de circuler, de revenir le soir, imaginez, quelqu'un qui a mis 3 heures ou 2 heures pour rentrer chez lui le soir, il n'a pas envie de refaire 2 heures pour retourner dans Paris, pour se regalérer le soir. Et les provinciaux ne viennent pas à Paris en ce moment. Bref, oui, c'est une vraie catastrophe et je pense que dans certains cas, c'est quasiment une mise à mort. J'entends beaucoup parler de solidarité de la part des grévistes, qui demandent à la population d'être solidaire, mais on aimerait aussi de temps en temps leur retourner le compliment et leur dire que peut-être ça serait bien aussi que de temps en temps, ils pensent à être aussi solidaires des autres.
L'acteur émetteur en scène Nicolas Briançon.
Et autre secteur impacté par les grèves, les secours, ce qui aurait pu être fatal pour une petite fille de 2 ans. On vous en parle dans un instant sur Europe 1.
Il est 19h09, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et avec la grève dans les transports, la circulation est devenue infernale. Les secours peinent à se rendre sur les lieux d'intervention, Sophie.
Oui, hier à Paris, une fillette de 2 ans se noie dans son bain. Le SAMU tarde à arriver. Ça aurait pu tourner au drame si le service d'urgence n'avait pas déclenché une alerte sur l'application Save Life, Sophie Echen.
Oui, en fait, cette application répertorie et géolocalise les secouristes qui se trouvent à proximité d'un accident. Et c'est justement ce qui s'est passé pour Hortense. Cette jeune fille de 19 ans était en train de réviser chez elle hier soir lorsqu'elle a reçu un message qui la prévenait qu'une personne était en arrêt cardiaque à 5 minutes de chez elle. Elle s'est alors précipitée sur les lieux.
Lorsque j'arrive, je tombe face à une mère qui était seule avec son enfant qui était allongé sur le palier dans l'entrée. Une petite fille de 2 ans qui ne bougeait plus du tout. Donc je me penche, l'enfant était tout bleu. J'ai tout de suite commencé à masser jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et lorsque les pompiers sont arrivés, la petite a recommencé à respirer. Sans cette application, je pense que la petite fille ne serait peut-être pas sortie vivante de l'histoire. C'est tombé sur moi, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Moi, c'est mon premier arrêt. J'avais jamais fait ça avant. Et les pompiers m'ont dit que ça l'avait sauvé, donc c'est vraiment c'est hyper important quoi, comme application.
Les pompiers sont arrivés une dizaine de minutes après l'intervention d'Hortense. À cause du trafic important, ils étaient coincés dans les embouteillages. Ils ont donc été contraints de laisser leur camion à l'autre bout du quai pour venir à pied, en courant, avec leur matériel.
Merci Sophie et Chen. Je peux juste te dire un mot sur cette application Save Life que vous pouvez télécharger en un clic. Et si vous êtes près d'une personne en souffrance et que les secours ne sont pas encore arrivés, c'est vous qui faites l'intermédiaire et qui pouvez créer de magnifiques résolutions comme ça. Donc on vous encourage vraiment à le faire. Ça prend quelques secondes et vous serez guidé pas à pas.
Et on s'intéresse à présent aux intempéries en France. Un homme de 70 ans toujours porté disparu dans le Lot-et-Garonne après les inondations hier. Un autre est décédé dans le Pays Basque. 11 départements du Sud-Ouest restent en vigilance orange. Les agents d'Enedis sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant aux 25 000 foyers encore plongés dans le noir, notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Normandie. Aucun risque sanitaire à la suite de l'important incendie dans la plus grande raffinerie totale de Normandie. Tôt ce matin, au Havre, un site classé Seveso. Le feu a provoqué une importante fumée. Les mesures de confinement prises dans la matinée ont été levées.
Et il y a 2 mois, c'est l'usine Lubrizol de Rouen qui était ravagée par un incendie. La région avait été touchée par une importante poussière noire.
Oui, après autorisation de la préfecture, le site, également classé Seveso, reprend depuis aujourd'hui progressivement son activité. Une rouverture forcément controversée, Caroline Baudry.
Oui, et ici, c'est dans une partie de l'usine épargnée par l'incendie que deux unités ont rouvert ce matin. Mais pas à l'identique, nouveaux moyens anti-incendie, anti-intrusion. Les salariés ont travaillé dur pendant les 11 semaines de fermeture, explique Francis Malandin, soulagé, qui les représente.
Le site est métamorphosé complètement. Et là, le fait que les premières gouttes devraient tomber le plus rapidement possible fait que enfin on concrétise tous ces efforts. Et ça fait vraiment un grand bien et ça nous booste tous énormément.
De leur côté, les riverains sont sidérés. Pour Simon de Carvalho, de l'association des sinistrés de Lubrizol, faire travailler ses salariés dans une zone encore en dépollution, c'est irresponsable.
C'est pas parce qu'il y a quelques mètres et qu'il y a une petite palissade qui sépare qu'on va pas faire croire que la palissade va empêcher la toxicité. Ils ont attendu rien du tout, ni la décision de justice, parce qu'il y a une enquête judiciaire aussi. Donc on a bien compris que l'industriel, il est au-dessus de tout le monde. Ce qui compte, c'est son argent, ses capitaux, la santé, ils en ont rien à faire.
Et il ajoute que plusieurs années de bataille juridique l'attendent. Il ira jusqu'au bout pour que l'usine Lubrizol et l'État assument l'incendie et ses conséquences sur tous les Rouennais.
Caroline Baudry à Rouen pour Europe 1. Merci Sophie Tussaud. Et ça y est, Marlène, vous avez téléchargé l'application Sauve Life.
C'est oui, une très minute rapide. À peine.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un petit point sur la météo avec 11 départements du sud-ouest toujours en vigilance orange pour les crues. Sinon, les températures en nette hausse, Valérie Darmon.
Et oui, le Redoux gagne un peu plus à l'est avec 5 à 14 degrés d'est en ouest et ces températures qui sont largement dans les normales de saison en ce dimanche après-midi avec par exemple également 11 degrés annoncés à Gap, à Brest, à Cherbourg et à Paris, 12 à Aurillac, à Quimper et à Rennes, 13 degrés à Angoulême, à Lons-le-Saunier et à Strasbourg, 14 à Lyon, 15 à Bordeaux, 16 à Nice et 17 à Marseille. Du côté du ciel, nous restons sous l'influence d'un vaste système dépressionnaire situé de l'Atlantique à tout le nord et le centre de l'Europe. On a donc une nouvelle perturbation qui va apporter des pluies sur une bande centrale du pays allant de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace. Des Pyrénées aux Alpes, le temps sera plus sec et surtout plus ensoleillé. Le vent se sera calmé en Méditerranée alors qu'il soufflera toujours assez fort en Manche où quelques averses côtières sont toujours possibles. Globalement, le temps est plutôt variable. Sauf qu'il est davantage pluvieux, donc de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace.
Merci Valérie Darmon. Europe 1, 19h14, c'est l'heure du journal des sports, Wanny Bouchard. Présenté par Christophe Lamarre avec cette 18e journée de Ligue 1 et ce match qui oppose Metz et Marseille.
On prend la direction de la Moselle, le stade Saint-Symphorien. On retrouve l'un de nos correspondants sur place, Patrick Muller. Patrick, les Messins étaient devant à la mi-temps. Est-ce qu'ils ont conservé cet avantage?
Et non, malheureusement pour les Lorrains, le score est désormais de 1 partout entre Metz et Marseille puisque Radonjić a égalisé pour l'OM à la 69e. C'est Nguette qui avait ouvert la marque côté Messin à la 39e. Nguette qui a obtenu un pénalty dans cette deuxième période, raté par Habib Diallo. Les Messins auraient pu mener 2-0. Finalement, le score est de 1 partout. Et c'est, il faut le dire, assez logique au vu de cette deuxième période, assez nettement dominée par l'Olympique de Marseille. Il reste 11 minutes dans le temps réglementaire et le score est donc de parité, un partout entre Metz et Marseille.
Patrick Muller en direct du stade Saint-Symphorien.
Avec 5 autres matchs au programme de cette 18e journée.
Ils débuteront tous à 20h et vous pourrez les suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir. Angers-Monaco, Amiens-Dijon, Nîmes-Nantes, Brest-Nice et Toulouse-Reims. Hier soir, on rappelle que Lille a battu Montpellier 2-1. Et puis en Ligue 2, un résultat de l'après-midi, Lens a battu l'AC Ajaccio 2-1 également.
Du foot toujours, mais à l'étranger.
Liverpool poursuit son cavalier seul en tête de la première ligue anglaise, bien aidé par le nul du dauphin Leicester face à Norwich. Victoire 2-0 des Reds face à la lanterne rouge Watford en Espagne. Barcelone a été tenu en échec 2-2 sur la pelouse de la Real Sociedad.
La Coupe du Monde de ski alpin maintenant et la faute à la météo. Le slalom de Val d'Isère est reporté à demain.
Le vent soufflait trop fort et a obligé les organisateurs à le reprogrammer demain matin. Un faux départ pour les slalomeurs donc, mais Victor Muffat-Jandet l'assure. Cela fait partie de la vie d'un skieur de haut niveau. On s'adapte.
On a quand même l'habitude avec tout ce qu'on vit depuis qu'on est toute petite, c'est le mot d'ordre du ski, c'est de s'adapter, donc on sait quand même globalement gérer. Voilà, faut savoir gérer temps fort, temps faible et bien rester concentré, se mettre dedans et puis quand il faut relâcher, pas perdre d'énergie. Et puis demain, en espérant qu'il fasse beau, que les conditions soient bonnes. En tout cas, on a vu qu'il travaillait bien sur la piste, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas bien.
Victor Muffat-Jandet qui sera au départ du slalom de Val d'Isère demain dimanche. Première manche à 9h30, deuxième manche à 12h30. Le géant qui devait avoir lieu lui aussi ce dimanche est reporté à une date ultérieure et dans une autre station.
En bref, la Coupe du Monde de biathlon.
Deuxième étape à Hochfilzen en Autriche. Le Norvégien Johannes Bø remporte la poursuite avec un 20 sur 20 au tir. Il devance le Russe Alexander Loginov et le Français Emilien Jacquelin. Simon Détieux termine 5e. Martin Fourcade prend la 10e place. Les championnats de France Petit Bassin à Angers. Deuxième titre pour Florent Manaudou. On en parlait tout à l'heure dans le journal des sports de 18h. Après le 50 mètres nage libre, le Français s'est imposé sur le 50 mètres papillon. Maxime Grousset prend la 2e place. Et Amaury Levaux, autre retraité sorti de sa retraite, et bien lui prend la 3e.
Si les retraités sortent de leur retraite, qui sont les vrais retraités?
Je ne sais pas, mais on ne comprend plus rien.
Merci, monsieur Lamar. À très bientôt.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1. À suivre, Wendy.
L'actualité à l'étranger, l'information de la semaine au Royaume-Uni, la victoire écrasante de Boris Johnson aux législatives qui devrait permettre de réaliser le Brexit d'ici la fin du mois de janvier. Analyse à suivre du journaliste John Henley.
19h19, nous sommes avec Wendy Bouchard. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Et dans l'actualité cette semaine, au Royaume-Uni, la victoire haut la main de Boris Johnson aux élections législatives.
Et c'est une information importante relayée d'abord dans le monde des affaires par l'euphorie des bourses mondiales. Bonsoir John Henley.
Bonsoir.
Vous qui êtes correspondant aux affaires européennes pour le Guardian, comment analyse-t-on d'abord, John, la réaction des marchés financiers ?
Écoutez, c'est surtout la certitude, je pense, que les marchés apprécient, un peu de clarté, parce que effectivement, comme a martelé Boris Johnson tout au long de cette campagne pour ces élections, son but, c'était de, comme on dit en anglais, get Brexit done, c'est-à-dire réalisons le Brexit, mettons en œuvre enfin ce Brexit, parce que ça fait longtemps. Ça fait maintenant 3 ans et demi que la Grande-Bretagne, le Parlement britannique, n'arrive pas à concrétiser, à réaliser le vote pour le Brexit qu'a fait les électeurs britanniques en juin 2016.
Donc cette victoire de Johnson, comme vous le dites, c'est la certitude, c'est l'assurance d'une ratification du Brexit dans les jours, les semaines qui viennent.
Tout à fait. Boris Johnson va ramener son accord de sortie, donc ce fameux accord de sortie l'ancien Parlement n'a pas pu ratifier pendant de longs mois. Il va le ramener devant le nouveau Parlement, très probablement avant Noël. Il y aura un nouveau discours de la reine. Ça sera très certainement approuvé, vu que Boris Johnson a maintenant une majorité de 80 sièges dans la Chambre des communes. Et on sortira très certainement de l'Union européenne. La Grande-Bretagne sortira le 31 janvier 2020. Mais il ne faut pas se tromper, en fait. Let's get Brexit done, cette devise de Boris Johnson, c'est un peu trompeur. Parce que même si on sort légalement de l'Union européenne, c'est ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'est vraiment leur d'œuvre. Hein. Le plat principal est à venir.
Ils prennent leur temps, vos amis.
Il va falloir négocier toute la nouvelle relation entre l'Union européenne et son premier ex-membre. Et ça risque d'être extrêmement compliqué. Parce que normalement, avec les accords de libre-échange entre les pays et entre les blocs, normalement, on cherche la convergence. On cherche à se rapprocher l'un de l'autre. Et là, on va chercher la divergence.
Et bien sûr.
Ça va être extrêmement compliqué à négocier.
D'où les messages. Je pense à celui de notre président Emmanuel Macron qui a souhaité le temps de la clarté, mais aussi que l'Union européenne garde un lien très spécial avec Londres. Message identique du côté de la chancelière allemande Angela Merkel. C'est dans l'idée de l'indépendance association, au fond, quelque part, John Henley ?
Oui, je pense que, écoutez, l'Union européenne a montré une unité exemplaire pendant la première phase des négociations. Ça risque d'être plus difficile dans la deuxième phase, parce que justement, c'est là qu'il y aura des différents intérêts nationaux au sein du bloc, qui risquent de faire en sorte que cette unité s'effrite un petit peu. Mais non, je veux dire, la Grande-Bretagne reste un voisin, sur le plan économique, un grand voisin. Mais c'est délicat, ça va être délicat pour l'Union européenne, parce que, comme a souligné aussi Angela Merkel, la chancelière allemande, si la Grande-Bretagne choisit la route de la dérégulation, elle va devenir vraiment une concurrente à l'Union européenne. Et donc voilà, ça va être très délicat pour l'Union européenne d'essayer de garder la Grande-Bretagne en bonne amie, parce parce que les deux, tous les deux, ils ont besoin l'un de l'autre les domaines, par exemple, de la sécurité, des affaires, des relations internationales, etc. Mais tout en faisant en sorte que la Grande-Bretagne ne devienne pas une sorte de Singapour sur la Tamise, capitale de la dérégulation et attire une sorte de concurrence déloyale pour l'Union européenne.
Un mot pour terminer, John Henley, sur le sort des 3 800 000 Européens qui vivent aujourd'hui au Royaume-Uni, et je pense aux Français parmi eux. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on va quitter le droit automatique de résider, de travailler dans ce pays pour un autre statut qui sera là aussi acté très très bientôt dans les jours qui viennent.
Tout à fait. Bah, ça existe déjà, ce statut. Ça s'appelle settled status. Je n'ai aucune idée comment on traduit ça.
Un statut d'installé quelque part.
Voilà, ça, statut de quelqu'un qui est installé. Mais c'est un statut qu'il faut demander. Ce n'est pas donné automatiquement. Il faut le demander. Il faut prouver qu'on a habité 5 ans légalement en Grande-Bretagne. Et si on n'a pas, je pense que là, on va entrer dans une période d'extension jusqu'à fin 2020. Et le gouvernement a dit, Boris Johnson avait dit déjà que ceux qui n'ont pas demandé et eu ce nouveau statut avant la fin décembre 2020 risque d'être expulsé. Donc c'est vraiment un grand changement pour ces, comme vous le dites, 3,8 millions de citoyens européens qui se sont installés en Grande-Bretagne grâce à la libre circulation, qui est un principe fondamental de l'Union européenne et qui doivent maintenant demander ce nouveau statut pour pouvoir rester légalement dans le pays.
Dans la volonté d'un pays uni. Voilà les mots ce soir encore de Boris Johnson. Merci John Henley pour cette lecture de ces élections législatives et de ce qui nous arrive avant la date butoir du 31 janvier, délai accordé par l'Union européenne au Royaume-Uni pour sortir de l'Union. Merci beaucoup John, vous qui êtes correspondant aux affaires européennes du Guardian.
19h26, à suivre dans le grand journal du soir, Wendy.
L'écho de la planète, on va rejoindre à Madrid notre amie Virginie Salmen et puis l'ombre des grands chefs avant notre On refait l'actu en présence du sociologue Michel Vivorca. A tout de suite.
Vous écoutez le grand journal du soir, la suite avec vous Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète, le journal de l'environnement que nous présente chaque semaine Virginie Salmen, en ligne ce soir de Madrid où se tient la COP25. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Madrid pour l'avenir de notre planète? Moment fort et discours choc. Et puis l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040, c'est voté.
On vous retrouve donc d'abord à Madrid pour cette COP25 qui se termine un peu douloureusement, on va le dire, Virginie. Elle a servi à quoi, cette conférence?
D'abord, à parler du climat pendant 2 semaines. Ça paraît rien, mais mettre l'urgence climatique à la une des discussions entre 196 pays, ça c'est très important, même si les négociations sont très lentes, et s'il y a des différences d'ambition colossales entre les pays. Par exemple, les représentants des petites îles du Pacifique, comme les îles Marshall, de certains pays d'Afrique, comme l'Ouganda, sont venus crier à l'aide, parce que le réchauffement climatique tue déjà chaque jour chez eux. C'est une réalité effrayante. Et de l'autre côté, certains pays riches qui ne voient pas leur intérêt à agir, à bouger, l'Arabie Saoudite qui protège ses réserves de pétrole, les États-Unis officiellement sortis de l'accord de Paris, le Brésil qui demande de l'argent, des financements avant de faire des efforts. Sauf que la donnée nouvelle, c'est la pression des citoyens qui n'a jamais été aussi forte, selon la présidente de Greenpeace Monde, Jennifer Morgan, qui assiste à ces sommets depuis 25 ans et qui a tenu un discours coup de poing à la tribune de cette COP. Il y a une extraordinaire vague de prise de conscience de la jeunesse et du pouvoir des citoyens à un point qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les solutions sont à portée de main, juste devant nos yeux. Mais où sont les champions du climat? Où sont les leaders? Et où sont les adultes dans cette pièce?
Oui, discours fort, beaucoup, toujours.
Oui, très très fort. Et beaucoup d'observateurs ici, d'ailleurs, partagent ton point de vue. Il n'y a jamais eu un si grand fossé entre les négociateurs et les citoyens, à tel point qu'il est question de revoir même la façon de faire des COP. L'une des explications, c'est peut-être que les décideurs sont moins informés, vous entendez bien, moins informés que les citoyens sur la question du réchauffement climatique. Ça paraît étonnant, mais c'est pourtant ce qu'a clairement constaté Bruno, qui animait un atelier pédagogique dans cette COP. Il a vu passer beaucoup de délégations de tous les pays.
Absolument tous les politiciens qui sont passés par notre atelier, qui sont venus là pour négocier des avancées pour le climat,
ne savent pas comment se dérègle le climat.
Donc ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas lu les rapports des scientifiques.
C'est ça, ils sont au courant de ce qu'ils ont à défendre, mais pas pour quels enjeux. Et on a trouvé ça vraiment triste. Je pense que c'est ça aussi qui nous déçoit.
Et donc la société civile, Virginie, avance plus vite que les autorités aujourd'hui, toujours.
C'est ce qu'ils disent, exactement. Et alors, en pleine COP25, la Commission européenne quand même a annoncé son Green Deal, son plan vert, pour transformer toute l'économie européenne de façon plus durable dès les premiers mois de 2020.
Voilà pour ce résumé de cette COP25 à Madrid où vous êtes toujours, Virginie Salmen. Il faut préciser que pendant ce temps-là, les députés français, eux, ont voté l'interdiction des plastiques à usage unique. Mais ça ne se fera qu'à partir de 2040. On perd encore tellement de temps.
Eh oui, les pots de yaourt, les bouteilles de shampoing, les tubes de dentifrice en plastique jetable ne feront plus partie de notre quotidien. C'est une révolution, dit-on au ministère. Réaction quasi immédiate des associations de défense de l'environnement, c'est beaucoup trop tard. Mmh. Le comédien Pierre Ninet a écrit un tweet qui a eu beaucoup de retentissement. 2040, qu'est-ce qui vous échappe dans le terme urgence climatique, dit-il. Mmh. Quant à l'industrie plastique qui était en train d'investir depuis 2 ans sur le plastique recyclé, eh bien, elle estime que 2040, au contraire, c'est trop tôt, c'est pas réaliste, ils ne vont pas y arriver. Voilà l'illustration de toute la complexité de cette transition écologique. Quelques produits jetables en plastique vont déjà être interdits dans le courant de l'année 2020. Les gobelets, les verres et les assiettes de pique-nique en plastique.
Merci, c'était l'écho de la planète. Bon retour en France. Virginie Salmen, ça sera peut-être plus long que prévu. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Et c'est l'heure à présent du rappel des titres. Wendy Bouchard.
Bonsoir Sophie Tussaud, on vous écoute.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Édouard Philippe prévient les grévistes décidés à poursuivre la grève à une semaine du début des congés de fête de fin d'année. Dans un entretien paraître demain, il appelle chacun à prendre ses responsabilités pour Noël. Et la grève dans les transports se poursuit. 11e journée, demain, toujours beaucoup de perturbations. Un TGV sur 4, un TER sur 3, un Transilien sur 5. À Paris, 2 lignes de métro sur 16 seulement en service. Le RER A, sera également totalement interrompu. 25 000 foyers toujours privés d'électricité ce soir dans l'ouest de la France, notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Normandie. 11 départements du sud-ouest restent en vigilance orange aux inondations. À la préfecture de Seine-Maritime se veut rassurante. Aucun risque sanitaire après l'important incendie ce matin dans une raffinerie Total du Havre. Les mesures de confinement prises dans la matinée ont été levées. Et cet incendie survient alors que l'usine Lubrizol de Rouen reprend progressivement ses activités depuis aujourd'hui. La préfecture a donné son autorisation 2 mois et demi après le violent incendie qui a ravagé le site industriel.
A tout à l'heure 20h, Sophie Tussaud.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. 19h34, Wendy Bouchard, l'heure d'aller faire un tour en cuisine.
Vous qui tentez de reproduire avec l'ombre des grands chefs ces recettes à la maison, Pierre Herbulot, vous êtes avec un chef et la bûche chocolat de Noël comme les pros. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, je vous emmène ce soir dans les cuisines d'un établissement parisien très connu, le Drugstore, avec le chef pâtissier Maxime Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ne pas parler d'une bûche ce soir, faire la bûche du Drugstore. Est-ce que vous pouvez me la présenter, chef ?
Chocolat du Pérou, très fruité, une mousse à la tonka, avec un biscuit croustillant au géant du Jarre. Le tout fonctionne parfaitement bien.
Ouais, c'est gourmand là, bûche au chocolat.
C'est simple, c'est des valeurs sûres. Hein.
Ça marche, par quoi on commence ?
Alors on va commencer par le biscuit au chocolat, blanc d'œuf en cuve. Donc il faut monter les blancs assez fermes, qu'il va falloir serrer avec le sucre.
Et on entend là la meringue, donc là, voilà.
Là vous entendez bien les blancs et le sucre. On va s'arrêter pour voir, mais on est pas mal. On va incorporer les jaunes et on va mettre notre poudre de cacao par-dessus. Il faut vraiment que le mélange soit vraiment homogène.
On est pas mal et ça sent bon. Ça sent le chocolat là.
On tient quelque chose, on démarre. On va enfourner ce produit à 180 degrés pendant 10 minutes.
Pendant que c'est cuit, on s'occupe du croustillant. On mélange des gavottes écrasées grossièrement avec du chocolat blanc fondu, du géant du Jarre et du praliné. Et là, chef, vous étalez ça comme ça sur une plaque.
À la bonne franquette. Tiens, il y a notre biscuit qui va s'apprêter à sortir.
On s'arrête tout de suite, on le sort, on ne le laisse pas plus longtemps.
Voilà, ouais. Le temps de cuisson, c'est le temps de cuisson. Après, ce sera trop cuit.
Et ce sera moins bon en plus. On poursuit, chef. On passe à la mousse chocolat tonka.
Notre liquide crème et lait sont portés à ébullition. On incorpore notre fève de tonka concassée et on va laisser infuser 10 minutes. Nous allons monter notre crème qui va servir à réaliser la mousse.
Et pendant que ça monte, on enchaîne. Hein, jaune d'œuf et sucre dans un cul de poule.
On va enchaîner notre jaune et notre sucre. Et là, on va reprendre ce qu'on avait mis de côté, notre petite infusion. Lait, crème. Donc, on met un tiers de notre liquide dans le mélange blanchi, jaune, sucre. On mélange le tout.
Puis on renverse le tout dans la casserole sur le feu comme une crème anglaise.
Voilà.
On verse ça sur notre chocolat blanc préalablement fondu et on y incorpore notre crème montée petit à petit.
On casse la forme et la texture. Et le reste se fait à la Maryse.
Tout doucement pour ne pas enlever l'air.
Avec beaucoup d'amour et voilà.
C'est important ça aussi.
Et ça fait partie de la recette.
Et là c'est magnifique.
Là on a une crème prête à l'emploi. J'ai envie de vous dire que c'est Noël avant l'heure presque. On va gentiment se pencher sur notre montage.
Donc on commence par garnir le fond de notre moule à bûche avec du
La mousse chocolat Tonka. On y va généreusement.
On laisse juste une petite place en fait pour mettre notre croustillant.
Exactement, le biscuit et le croustillant. Voilà, le tour est joué.
Donc notre bûche est prête.
Place à la dégustation maintenant, cher ami.
C'est incroyable. La Tonka, ça parfume vraiment. On a le croustillant, la texture, du goût. C'est vraiment délicieux, chef. Merci beaucoup. Ravi. Merci pour cette recette.
Grand plaisir et bonne fête de fin d'année à tous. Régalez-vous, sublimez et partagez. Faites-nous plaisir. Hein. Envoyez des petites bûches à droite à gauche.
Voilà, faites-vous plaisir et joyeux Noël.
Merci. Merci Pierre Herbulot.
Une recette à retrouver sur europe1.fr. Et si je peux me permettre, dans Tout Terrain, aujourd'hui, on a consacré un bel hommage, un beau sujet à Pierre Herbulot. Il faut absolument réécouter sur europe1.fr ce sujet, donc dans l'émission de Fabienne Lemoyle. Tout Terrain.
Merci Marlène.
À suivre, on refait l'actu.
On refait l'actu et on parle des Français et du travail. Que disent les images de cette organisation en période de grève, de notre nécessité d'aller bosser? C'est le sociologue Michel Vivorca qui nous éclaire.
Jusqu'à 20h, vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1. Il est maintenant 19h39 et on refait l'actu cette semaine. Wendy, votre œil s'est arrêté sur de nombreuses images.
Oui, celles des embouteillages monstres de mardi ou de jeudi, jour de grève et de manifestations en région parisienne notamment. Images de ces foules de travailleurs dans les tunnels de métro, le RER ou les gares. Paris impacté, mais la France entière également avec ses trains et ses avions annulés. Bonsoir Michel Vivorca.
Bonsoir.
J'imagine que ces images n'auront pas non plus échappé aux sociologues que vous êtes. Que vous inspirent-elles ?
Elles sont très impressionnantes. Je pense qu'elles nous montrent que la France a beaucoup changé par rapport à 1995, quand il y avait eu également un très puissant mouvement. Je pense qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de ces problèmes de gens entassés dans des couloirs de métro, ne parvenant pas à monter dans des bus ou dans des trains, toutes ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler encore la banlieue, a pris une importance bien plus grande qu'avant dans la vie économique de la région parisienne. Et donc, c'est très impressionnant et ça témoigne vraiment d'une évolution économique et démographique. Ça,
oui.
C'est pour la région parisienne. Je pense aussi que ça nous indique qui souffre le plus de tout ceci. Ce sont ceux qui n'ont pas le choix, qui doivent aller travailler ou se déplacer, en tout cas, malgré la grève. Pour d'autres, c'est moins grave, c'est moins difficile.
Image de la France qui bosse et qui souffre, c'est ce que vous dites, Michel Vivorca. On a le sentiment que peut-être le gouvernement n'a pas pris acte de tout cela, notamment en communiquant assez essentiellement sur le télétravail. Cette France-là ne peut pas pratiquer, en l'occurrence, le télétravail. La France des petits artisans, des petits commerces, la France des services.
Oui, mais même la France du télétravail ne peut pas durablement être uniquement dans le télétravail. Vous savez, le télétravail, c'est bien si ça ne coupe pas complètement les salariés de leur emploi et de leurs collègues. Si on venait dans le télétravail en partie seulement. Mais enfin, s'il n'y a pas une capacité de se connaître, de se fréquenter, de se parler, de se croiser à la cafétéria, etc., ça renforce l'individualisme, ça renforce des logiques qui peuvent être ennuyeuses. Donc de toute façon, c'est un problème qui n'est pas si simple, le télétravail. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, vous demandiez si le gouvernement a pris la mesure de la donne actuelle. Je crois que la question est d'abord politique. C'est-à-dire que la question est de savoir pourquoi le gouvernement a fait ce choix de se mettre à dos la CFDT et les syndicats qu'on appelle réformistes. Parce que il pouvait très facilement décider autrement. Et donc là, il y a une analyse politique à faire, parce que tout ça est tout à fait délibéré. Et au-delà de problèmes proprement de société, comme le télétravail, je crois qu'il y a une analyse politique à faire.
Vous dites aussi, Michel Vivorca, que cette France qui se déplace et qui fait tout pour aller au travail, des heures d'attente, n'a pas le choix en effet. Mais je voudrais vous faire réagir sur les mots du Premier ministre qui, quelque part, s'en remet un petit peu à cette foule, justement. Et qui dit ceci il y a quelques heures au syndicat: il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver du moment de Noël. Comment on peut comprendre ce message qui finalement a l'air de faire s'opposer deux France qui vont au travail et qui travaillent, l'une est en grève, l'autre doit se déplacer, mais ce sont les mêmes France.
On est dans le rapport de force entre le pouvoir et deux types de syndicats, de syndicalisme, qui d'ailleurs eux-mêmes ne sont pas d'accord. Et donc c'est une situation très 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 étonnante. L'idée de faire porter aux syndicats le chapeau me semble excessive ou injuste, parce que ça n'est pas eux qui sont à l'initiative de la réforme et ça n'est pas eux qui sont à l'initiative de son contenu. On ne peut pas dire d'un côté, je vous tends la main, discutons, négocions, et en même temps, si vous ne faites pas ce que nous avons décidé, c'est vous qui serez responsable. Donc je trouve que c'est excessif.
Et là, je voudrais qu'on arrive au rapport des Français au travail, Michel Vivirca. Aujourd'hui, en 2019, quel est-il ce rapport ?
Les Français considèrent que le travail perd de son sens aujourd'hui. Il y a eu une enquête très intéressante qui a été commandée par la MGEN il y a quelques jours qui montre que dans beaucoup d'endroits, les Français ont conscience de vivre un peu mieux, d'avoir une espérance de vie meilleure, de vivre vieux, âgé et en meilleure santé. Enfin bref, qu'objectivement ça va un petit peu mieux, mais que par contre le sens même de leur existence se défait, s'en va. Et le sens qui s'en va, il se perd au travail avant tout.
Et quand vous dites sens du travail, ce n'est pas la valeur du travail. Cela ne se pose pas simplement en termes de rémunération. C'est l'utilité dans le corps social.
Exactement. Ça n'est pas la même chose. Une chose est d'être payé correctement et une autre chose est de se réaliser dans son travail et d'y donner un sens. Vous avez des gens qui acceptent d'ailleurs d'être moins bien payés que ce qu'ils pourraient obtenir ailleurs parce que le travail les intéresse. Et vous avez des gens qui sont bien payés mais qui se demandent à quoi ça sert tout ça. Mmh. J'ai étudié dans le passé les terroristes italiens d'extrême gauche, il y a 30 ans. Mmh. Certains d'entre eux étaient très qualifiés. Bac plus 4, plus 5. Ils travaillaient à la chaîne avec des salaires d'ailleurs qui n'étaient pas nuls, à chez Fiat ou autre. Ces gens-là avaient un sentiment profond, c'est un cas extrême bien sûr, d'être déqualifiés, disqualifiés, méprisés, qu'on leur faisait faire des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils pouvaient apporter à la société. Ils ont basculé dans le terrorisme. Alors je ne dis pas du tout qu'on en est là en France, mais je dis simplement, il faut faire très attention, le salaire, les horaires, un certain nombre de choses très importantes bien sûr, ne suffisent pas à faire en sorte que les Français aiment leur entreprise, leur emploi, leur travail, leur métier.
D'où la fébrilité qui monte en ce moment. Quand on nous entrave en plus à faire un travail qu'on ne juge pas forcément utile ou intéressant, on comprend que les journées soient longues, Michel Vivirca.
Oui, je pense que parmi tous ces gens qui veulent absolument venir travailler, certains n'ont pas le choix économiquement, évidemment. S'ils ne viennent pas, ils perdent leur salaire, ils perdent leurs revenus, donc c'est une catastrophe. Mais je crois aussi qu'un certain nombre sont attachés à leur travail, justement, et qu'ils pensent que ce qu'ils font fait sens. Il n'y a pas simplement le salaire, mais il y a de moins en moins le sentiment que les choses font sens.
Michel Vivirca, sociologue et directeur d'études à l'EHESS, était avec nous ce soir. Merci d'avoir refait l'actu avec nous, Michel.
Bonsoir.
Merci. Et maintenant, Wanny Bouchard, une semaine en Europe 1. Voici les temps forts sur l'antenne ces derniers jours.
On commence lundi, 8h35. C'est scientifiquement prouvé. Pourquoi se sent-on si bien à la campagne, au contact de la Terre, et la Terre qui agit bel et bien comme un antidépresseur? Écoutez Fanny Agostini.
On sait instinctivement que nous nous sentons bien au grand air et particulièrement au contact de la Terre lorsque nous avons les mains nues et les pieds nus. Et aujourd'hui, on peut précisément expliquer pourquoi. Des scientifiques viennent de mettre en évidence une bactérie vectrice du sentiment de bonheur, la Mycobacterium vaccae. Tout individu qui a un contact direct avec la Terre est susceptible de l'attraper par inhalation. Et une fois dans votre organisme, eh bien cette bactérie va se frayer un chemin dans votre tube digestif. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à être plus heureux, plus sereins, moins stressé, de meilleure humeur et que nous trouvons en plus le sommeil plus facilement.
Mercredi, un an après, Strasbourg rend hommage aux victimes de l'attentat au marché de Noël. 5 personnes fauchées par la barbarie islamiste. Ishraq, témoin du drame, raconte les horreurs qu'elle a vues.
On n'est plus la même personne. On voit les choses autrement. Je ne suis plus pareille. Je sors avec la peur au ventre. Et je ne dors pas toutes les nuits. Je prends souvent des médicaments pour dormir. On devient limite, on va dire, agressif des fois envers les gens, mais c'est sans le vouloir. Je ne suis pas comme ça, j'étais une personne très souriante, très gentille. Et j'aimerais bien, moi, voir ma vie d'avant. J'aimerais bien. Tu es vivant sur tes pieds, oui, mais intérieurement, tu es mort.
Jeudi, c'est Nicolas Canteloup qui mime Édouard Philippe et ses annonces sur les retraites. Écoutez.
Je vous le dis sans vouloir bousculer qui que ce soit.
Oula. Vous allez bosser plus longtemps et pour moins de sous. Voilà.
Tout en douceur, hein, vous aviez dit. Alors, vous avez, quand même... vous avez quand même laissé une porte ouverte à la négociation. Vous l'avez dit, hein. Ma main est tendue, ma porte est ouverte.
Tout à fait. Mon doigt est tendu, comme ça. Pardon, ma main est tendue.
Oui, tendue.
Ma porte est ouverte. Toute ouverte ou toute bleue ou toute rouge. Enfin bon, vous pouvez passer votre main par ma porte. Je ne fermerai pas la main. La fenêtre. La porte. Mais attention, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort.
C'est très clair. Hier, dans Périscope, Jean-Philippe Ballas a rencontré Pierre Richard, seul en scène à 85 ans, dans Monsieur X, un spectacle plein de poésie.
Vous venez de ne pas parler pendant une heure sur scène. Oui. Comment vous vous sentez ?
Mieux en mieux. Moi, je parle mieux, je me supporte. Alors, évidemment, j'aurais aimé faire des films muets, je ne les ai pas faits. Là, je suis heureux de rien dire. Mais finalement, je retrouve ce plaisir que j'ai de jouer avec mon corps que je n'ai pas eu l'occasion de faire depuis des années. C'est que ces choses-là, on ne me demande plus de les faire au cinéma depuis longtemps.
Vous avez toujours été en décalage, c'est ce que vous dites souvent.
Bon, oui, c'est vrai. Mais là, je ne suis pas en décalage. Enfin, je ne suis pas en décalage.
Vous avez l'air de jubiler sur scène.
Ah ben, jubile. Ah ben oui. C'est bien, j'adore faire rire.
Pierre Richard à voir au théâtre de l'Atelier. Allez au théâtre pour reprendre le mot du soir de l'acteur Nicolas Briançon sur Europe 1.
Et c'était le tour de l'actualité de la semaine avec vous, Wendy Bouchard. Dans un instant, un jour, une histoire.
Avec Fred Zetoun, journaliste spécialiste de la chanson aussi, en spectacle demain au Café de la Danse à Paris, le 15 janvier à Reims. Allez au spectacle encore, il nous le dira.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1. Les tours du monde en jet privé TMR vous présente maintenant l'entretien de Philippe Legrand.
Un jour, une histoire avec Paris Match et Philippe Legrand qui reçoit chaque samedi une personnalité qui se souvient avec nous sur Europe 1. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous, bonsoir Fred Zetoun. Bienvenue.
Bonsoir.
Sur Europe 1, vous avez choisi de revenir sur cette date, une date difficile, le 11 septembre 2001. Un choix qu'a fait aussi à votre place Sylvie Vartan, mais aussi Charlotte de Turckheim. 11 septembre 2001, les attentats aux États-Unis. Une date, je disais, difficile, une date noire. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Écoutez, parce que ce jour-là, ce 11 septembre 2001, nous étions rue des Rosiers pour une émission à laquelle je participais, qui s'appelait C'est au programme, venait de sortir en coffret collector Les aventures de Rabbi Jacob, et j'avais demandé à Ilan Zawi de la troupe Adama de me refaire rue des Rosiers, exactement là où ils avaient tourné la séquence de Rabbi Jacob. En fait, pour la véracité, cette séquence avait été tournée dans un studio. On avait reconstitué la rue des Rosiers en studio en 1973 pour les aventures de Rabbi Jacob. Donc là, nous étions retournés devant le restaurant Goldenberg avec Jean-François Lecaq, qui était mon caméraman, avec qui je tournais pendant des années sur France 2. Et nous étions avec Ilan Zawi et la troupe Adama, qui étaient en train de nous expliquer comment De Funès avait fait cette danse. La danse de Rabbi Jacob, il était en train de nous la disséquer devant nos caméras et devant nos micros. Et il y avait un petit magasin d'électroménager juste à côté du restaurant Goldenberg, dont est sorti un monsieur totalement affolé avec un écran de télé à la main. Je le reverrai toujours avec cet écran à la main, brandissant ça en disant « Regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe ».
Qu'est-ce qu'il en reste ? Quelle image vous gardez de ce moment-là, cet homme qui venait avec qui sort de son magasin avec le téléviseur, et là, vous voyez sur l'écran ces tours.
Effectivement, on commençait à voir les tours en flammes. On voyait les gens qui commençaient à sauter par les fenêtres pour se sauver, c'est-à-dire à mourir en direct. On aurait vraiment dit un jeu vidéo, et on voyait ces gens sauter par la fenêtre, ces gens se donner la mort. C'était, je crois que c'est ça, moi rien que d'en parler, j'ai encore des frissons, quoi. Et puis je vous dis, surtout ce qui me reste de cette journée-là, c'est cet éclat de rire, mais 3 secondes avant, et d'un coup d'un seul. Il faut savoir d'ailleurs que ce film, Rabbi Jacob, était lui-même déjà arrivé sur un terrain absolument tragique. Lorsque ce film est sorti, Gérard Houry a failli ne pas le sortir, puisqu'on était en pleine guerre du Kippour. Et on se disait, est-ce que sortir les aventures de Rabbi Jacob alors que la guerre du Kippour fait rage, est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Donc à chaque fois, il y a eu rire et larmes qui se sont alternés.
Fred Zetoun, la séquence que vous étiez en train de tourner le 11 septembre 2001, au moment où le téléviseur vous est apporté pour vivre ce drame aux États-Unis, vous arrêtez la séquence. Qu'est-ce qui se passe ?
On n'a pas pu tourner plus longtemps. On avait déjà beaucoup tourné. On avait quasiment fini le tournage. Mais là, il était impossible pour nous, voyant ces images, de continuer à rire et à demander à qui que ce soit de danser dans la rue.
Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Vous êtes allé aux États-Unis, vous connaissiez cet endroit.
Bien sûr.
Il y a plusieurs attentats à ce moment-là, hein, ce 11 septembre. Il y a évidemment New York, le quartier des Tours Jumelles, mais il y a aussi Washington, il y a la Pennsylvanie.
Bien sûr.
À New York. Vous connaissiez Zero,
Je suis retourné quelques années plus tard, en 2007, et nous avons vu ce site dévasté, ce site hanté par la mémoire de tous ces gens qui sont morts ce jour-là. Oui, ça fait partie des grandes émotions quand on visite New York. Là encore, on passe de Times Square avec les néons et les théâtres plus haut en couleur les uns que les autres, et vous arrivez à Ground Zero, et là, vous voyez l'horreur.
Vous êtes en fauteuil, hein, c'est... Oui. Et vous l'affirmez, vous avez même d'ailleurs écrit un spectacle il y a quelques années autour pour dépasser le cas du fauteuil roulant. Le fauteuil vous donne des ailes, vous sortez un nouvel album, duo en solitaire, oui, avec Charles Aznavour, c'est d'ailleurs ce dernier moment entre qu'il autres, a passé en studio pour chanter avec, oui, vous, entre autres. Oui, on en trouve évidemment oui, d'autres, Philippe Laville avec lesquels vous interprétez, et puis Vuteil,
bien sûr,
Michel Fugain, etc. Alors, un mot sur cette rencontre de duo avec ce grand Charles.
Ça a été vraiment un vrai cadeau de la vie. Cette rencontre, je la dois à mon éditeur depuis 30 ans. Il y a des cadeaux dans la vie. La rencontre de Gérard Davoust, pour moi, en est un. C'est un véritable cadeau. C'est un éditeur dont on ne fait plus la réputation. Il a présidé à la carrière des plus grands. Et voilà de nombreuses années qu'il me fait l'amitié de me soutenir et d'être là à mes côtés. Et lorsqu'on a eu l'idée de ce disque de duo, de ces chansons donc, que je chantais tout seul, de demander à des interprètes de venir les chanter avec moi, il se trouve que bien au contraire, c'est Charles Aznavour qui nous avait déjà fait le premier cadeau de nous en faire la musique. C'est Gérard Davoust qui a demandé à Charles, bah, tiens, est-ce que vous accepteriez de venir ? Et nous sommes allés chez lui à Mouriès, dans le sud de la France, quelques mois avant son départ, et nous avons enregistré. Et ça restera, je crois, professionnellement un des plus grands moments de ma vie.
Bien au contraire, c'était ce titre-là que l'on trouve dans Duo en solitaire. Merci Fred Zetoun d'être venu sur Europe 1.
Merci à vous Philippe, merci.
Et plus jamais, en plus jamais.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR, les tours du monde en jet privé. Inscrivez-vous au 45e tour du monde en jet privé en appelant le 04 91 77 88 99.
On vient d'entendre ce duo, Charles Aznavour, Fred Zetoun, Fred qui sera le demain hein, à 18h au Café de la Danse à Paris. Fabien Lecoeuf, c'est un homme, un chroniqueur, journaliste que vous connaissez bien.
Incroyable, c'est surtout un bel auteur.
Ami.
Oui,
un
ami, c'est un très bel auteur, il a écrit bon nombre de titres pour beaucoup d'artistes. Et puis il a surtout cette grâce et cette volupté d'être sur scène et de nous faire rentrer dans sa vie, dans son existence, qui n'a pas toujours été facile. Mmh. Et quand même, ça se termine toujours en conte de fées. Ouais. Et ça, c'est assez magnifique. Allez le voir sur scène.
Vous avez vu un certain nombre de ses spectacles et vous pouvez
en
attester.
J'en ai vu trois, oui, absolument.
Ouais. Merci Fabien Lecoeuf, on se retrouve demain avec un grand plaisir.
On parlera bien sûr de Mathieu Chédid.
Ah, et lui aussi entame un beau cycle de tournée. À demain, chère Marlène.
À demain, Wendy.
Jérémy Hébert était à la réalisation. Naïma Benchemann m'a aidé à programmer ce 18-20. Portez-vous bien. À demain. Belle soirée à tous. Et c'était un plaisir.
C'était Wendy Bouchard sur Europe 1.